Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live. En ce moment, je fais que ça, des lives sur la chaîne de podcast, et je m'amuse bien à faire ça. Et j'avais envie de finir l'année, c'est le dernier podcast de l'année. On se retrouvera donc l'année prochaine pour... Ah, je vais couper le son, j'ai mon écho là qui arrive. Donc au moins, je sais que le son marche bien sur YouTube, parce que j'ai l'écho qui est arrivé. Il y a un petit décalage avec l'enregistrement en direct. Et ouais, donc je disais, on reprendra les podcasts à partir de mardi 2 janvier. Ouais, c'est ça, mardi 2 jan 3 janvier. Mardi 3 janvier. Et pour finir l'année, j'ai un sujet qui me titille depuis un petit moment. Et c'est pour ça que j'ai invité un spécialiste pour parler de ça. C'est voilà, le MMA qui, cette année, a une année quand même assez marquante en France avec des noms français qui ont performé et un gros événement en France qui est venu avec l'UFC. Et donc, pour ça, j'ai un invité, la barbarie française. Samir, comment ça va?
Ça va et toi, j'y sais.
Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est quoi un peu là en ce moment, toi, les événements qui t'ont plu là sur ce mois, ces derniers temps? Il s'est passé des choses sympas?
Sur ce mois,
Ouais, disons les 15 derniers jours là.
on commence mal. Il y a rien, c'est plein en ce moment.
Ouais, je
C'est
t'entends beaucoup dire
sec,
ça. Mais même
c'est
de cette
plat.
année, j'ai l'impression que tu as dit que cette année, c'est pas ouf, c'est ça?
Non, c'est vraiment, vraiment, on s'attendait à plein de choses qui sont pas arrivées. Il y a plein de mecs qui parlaient, mais qu'ils n'ont pas fait. Non, franchement, c'est un peu plein, hein. C'est un peu sec. Franchement, le plus gros événement de l'année, c'est l'UFC Paris, hein.
D'accord.
Je vois rien au-dessus, hein.
Ok. Ah, parce que tu vois, moi, de mon regard un peu extérieur, tu vois, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, du MMA et notamment de l'UFC, et je me dis, ben, c'était une super année. Les fans de MMA, ils ont dû se régaler cette année 2022.
Non, mais moi, ça fait depuis 2002, comme je te disais tout à l'heure, 2003, que je regarde du MMA. Et même mes périodes creuses, je vais regarder, tu vois. Là, je fais des manières, tu vois. Mais en fait, on a tellement eu de cadeaux ces dernières années que ben, forcément, dès que c'est un peu plat, on se plaint, tu vois. Mais j'abuse. Il s'est passé des choses, mais enfin, le problème, c'est au niveau du renouvellement des stars, tu vois. Et là, en plus de ça, les mecs installés, les champions installés ont tous, presque tous, perdu leur titre, là, dernièrement. Donc là, on est dans un tournant. Mais bon, comme c'est un sport qui est hyper mainstream, tu sais, qui va vachement avec notre époque, ça va pas redescendre, hein, forcément. On est de plus en plus sur TikTok, de plus en plus sur les réseaux, de plus en plus tous ces nouveaux réseaux-là qu'on consomme de plus en plus. Et on est de plus en plus sur Internet. Donc, non, ça ne s'arrêtera pas. En fait, c'est ça. Statistiquement, c'est sûr que ça ne va pas redescendre. Mais quand tu es un vrai passionné de MMA, voilà, des vraies oppositions, moi, j'aime bien le star power. Tu vois, j'aime bien tout ce qui entoure le MMA aussi, le business, tout ça. Et en ce moment, c'est un peu sec, tu vois. Ouais, je ne sais pas si tu veux rentrer tout de suite là maintenant dans l'époque
Bon,
qu'on est là.
on va prendre notre temps. Attends, on va prendre
Ouais,
notre temps.
voilà.
Je vais saluer un peu les gens qui sont là. Gant de boxe, Vincent, Faco Labuche, Ben le testeur, Titi la bagarre. Ils ont des noms. Malik. Donc voilà, je vous salue tous. Sam States et Bruce Wayne. Il y en a un qui a dit l'UFC 280, je crois. Alors, est-ce que c'était pas mal ça, l'UFC 280?
Ouais, c'est bien sûr. Ouais, c'était énervé. Ouais, c'était pas mal. Mais
Je te
j'ai
sens
pris.
pas ouf.
Non, mais c'est parce que j'avais pronostiqué Oliveira, moi, c'est pour ça.
Ah,
Et
c'était
Oliveira, il s'est fait
son
éteindre
bar.
deuxième round, tu vois. Donc oui, c'était un énorme événement, ouais. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas des énormes stars quand même, tu vois. C'est, je veux dire. Là, moi, je me plains en ce moment, parce que pour moi, on est dans une pire époque du MMA. Une des pires époques du MMA, tu vois. Parce que,
Ouais.
comme je te disais, il n'y a pas ces énormes stars. En plus, il commence à plus. Alors, j'ai peur, hein, parce que ça en commence. Je tape tout de suite sur la boxe anglaise, mais ça commence tout doucement. Là, on commence à avoir des bails. Ça commence à devenir de la boxe anglaise. Tu en as certains
Ouais.
qui disaient, je vais prendre tout le monde. Et finalement, bah, quand ils ont un billet, qu'il y a du Gucci dans l'armoire, tu te rends compte qu'en fin de compte, ça devient des businessmen. Ils sont grave managés et qu'ils prennent plus personne. Donc,
Ben, tu
enfin
sais quoi, je suis
voilà.
content que tu parles de ça. Je suis content parce que c'est un peu mon ressenti aussi. J'ai l'impression que le MMA, notamment l'UFC, il s'inspire quand même pas mal de ce qui se font dans la boxe. Après, il y a aussi l'attitude des combattants, comme tu l'as très bien dit. Et par exemple, avec ces titres intérim, j'en avais jamais entendu parler avant. Et d'un seul coup, il y a des titres intérim
Exactement. Je
qu'on nous
déteste
vend
ça.
comme des titres de champion du monde. Hein. Mais bon, ça, c'est un peu
Je
la spécialité
déteste.
française. Alors, attends, avant de s'emballer, parce que là, je vois qu'on rentre un peu dans les éléments qui vont amener à notre débat, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le MMA pour en arriver là, à être aujourd'hui aussi populaire. Tu vois, avant, c'était surtout en France. C'était très mal vu. Moi, je me souviens à l'époque du collège, c'était plutôt de notre âge de suivre des combats pieds-poings et notamment ce qui est devenu par la suite le MMA. On regardait ça via beaucoup de vidéos. C'était les premières vidéos qu'on téléchargeait et donc c'était des vidéos qui devenaient virales et qui faisaient des centaines de milliers de vues. Et tous, gamins, on avait tous ces vidéos et on se régalait devant des KO impressionnants, des personnages. C'était un peu presque un peu du catch parce que c'était des personnages
Mais ouais,
extravagant, ouais, c'était un peu ça.
encore, LimeWire et tous les trucs là, c'est venu après, téléchargé encore. Moi, quand je regardais le Pride,
Ouais.
je crois que c'était en cassette vidéo, hein, parce qu'en fait,
Ah ouais.
le père de mon meilleur ami, il achetait au tabac, et je sais plus si c'était des DVD, je sais que c'était en 2002, vraiment un gosse. Et je m'en souviens très bien, parce que je l'ai encore dans la tête aujourd'hui. Il y avait Wanderlei Silva avec sa tête d'assassin. Et j'étais vachement impressionné. Et nous, on faisait des têtes. Enfin, voilà, c'était presque quotidien de faire des têtes. Du coup, on voyait des mecs qui faisaient aussi des têtes dans des rings. Et on se disait, wow, ça tue comme sport. Et enfin, voilà. Donc, ouais, non, c'est même avant encore le téléchargement. Voilà.
Alors,
Au
juste, tu as
col.
cité le Pride, hein, c'est ça? Tu as cité le Pride.
Le Pride, ouais, parce que moi, c'est vraiment le Pride. Hein. C'est pas l'UFC à la base. L'UFC, ça existait avant le Pride. Mais
D'accord.
l'UFC, le Pride est vraiment au-dessus. Enfin, le Pride était vraiment au-dessus. D'ailleurs, ils ont des
Alors, qu'est-ce qui
records.
a fait...
Ouais, ils ont des
Vas-y, vas-y,
records que
dis-moi.
je ne pense pas que l'UFC n'a battu même aujourd'hui encore, tu
OK.
vois. Ils ont rempli des
Dis-nous un
salles de
peu
70 000
pourquoi...
personnes.
Voilà, viens un peu si je peux dire, les détails qui a fait que le Pride était l'organisation majeure à ce moment-là.
Bah écoute, déjà, la politique. Alors, je fais un peu d'historique, hein, vite fait, tu vois, vite fait.
Vas-y.
En gros, l'UFC, c'est 93, à peu près. Ouais, 93, jusqu'à aujourd'hui, hein, ça fait 30 ans que ça existe. Ça a été racheté et tout. Enfin bref, les frères Fertitta, c'est une idée de Dana White. Enfin bon, bref, pas revenir sur toute l'histoire de l'UFC, mais à la base, Dana White n'a rien à voir dans l'histoire. Mais les frères Fertitta, Lorenzo, enfin. C'est un investisseur. L'investisseur à la base, hein, que Dana White a été chercher, un ami d'enfance, qui a sorti les 2 millions pour racheter à l'UFC. Mais à la base, l'UFC, c'est un tout petit orga. C'est un promoteur de pieds-poings qui a l'idée. Enfin bref, ils veulent savoir quel art martial est le plus fort, tu vois. Donc ils font un tournoi avec 8 mecs. Dans le tournoi, bah, tu as Royce Gracie qui défonce tout le monde et qui lui représente le jiu-jitsu brésilien. Pareil, je ne vais pas revenir sur l'histoire du JJB, c'est long. En fait, Royce défonce tout le monde, et puis voilà, il y a la naissance de l'UFC, il y a l'UFC, ça c'était l'UFC 1, lui il fait 3 combats dans la même soirée, il bat tout le monde, et après t'as l'UFC 2 et compagnie, mais ça pète pas vraiment, bah déjà la boxe anglaise c'était sur une planète, tu vois, la boxe anglaise. Mike Tyson, c'est cette période encore, Mike Tyson, non, si, ouais,
Attends, t'es quoi, début 2000?
non, je suis 93, 94,
Ouais,
95,
les années 90, c'est une période où les poids lourds, il y avait encore le nom de Mike
ouais.
Tyson, bien entendu, et
Ouais.
c'était assez impressionnant cette période-là.
Voilà, c'est vraiment voilà la boxe anglaise encore. Mais
D'ailleurs, on en parlait de Tyson dans le MMA. Il y avait beaucoup de rumeurs à cette époque.
ouais. Mais il y a eu plein de trucs comme ça. Si on fouille, il y a eu plein de rencontres des mecs qui font de l'anglaise. Tu sais, Mayweather-Connor, ça a déjà été fait il y a 20 ans en fait. Si tu analyses bien le truc, tu vois. Sauf qu'il n'y avait pas les réseaux. Donc forcément, il y a bien moins de monde qui sont au courant. Et puis, enfin, tu sais, aujourd'hui, ça va trop vite. Tout le monde sait tout. Enfin bref. Donc pour revenir à ce que je disais, tu as l'UFC. Après 97, enfin, ils n'arrivent pas en fait à se développer parce que c'est une question de politique aux États-Unis. Il y a presque pas de règles. Tu as le droit de piétiner les mecs, tu as le droit de la taper dans la nuque, dans la colonne vertébrale. Donc, ils ont beaucoup de mal à se développer. Et ja au Japon, c'est Sakakiraba, le mec qui s'appelle. Il crée le Pride en 97. Et le Japon, c'est déjà, ils ont la culture des arts martiaux, tu vois. Et il y a toute une com. une com dont l'UFC s'est inspiré jusqu'à aujourd'hui. Ils ont une communication derrière les combattants. T'as l'impression que les combattants sortent de jeux vidéo. C'était grave à la mode à l'époque. Tu sais, les jeux vidéo Street Fighter, Mortal Kombat. Et en fait, les combattants, moi, c'est comme ça que je les voyais. C'était des personnages de jeux vidéo. Et quand ils les présentaient, c'était la même chose. Tu avais une petite musique, ils arrivaient, ils avaient tous leur, pas leur déguisement, mais le costume qui, l'ensemble qui correspondait à leur art martial. Tu vois, t'en as qui rentrent en kimono, en karaté-gi, en judo-gi. T'avais le catcheur, t'avais Sakuraba qui représentait ça, t'avais les Gracie qui représentaient autre chose. Enfin bref. Et en fait, le Pride, c'est les précurseurs pour moi. Ils remplissaient des salles énorme et ils ont réussi à amener la crème de la crème, tu vois, et ils ont eu les premières grandes stars de ce qu'on appelait à l'époque, ben moi j'appelais ça le free fight, c'était pas le MMA encore, c'était vraiment le free fight, le combat libre. Et voilà, hein, des Brésiliens, des mecs d'Europe de l'Est, comme Fedor, Mirko Crocop, t'avais les Brésiliens en face, les frères Nogueira, enfin Minotaur, Wanderlei Silva, t'avais l'Américain. En fait, c'est pour ça que je te dis c'était jeux vidéo parce que t'avais des mecs de chaque continent. Tu sais, c'était surtout Russie, États-Unis, Brésil. Et puis voilà, et une grosse com monstrueuse. Bon, il y a énormément de choses, mais bon, ça risque d'être long. Mais le Pride, c'est le précurseur, le premier truc, c'est vraiment le Pride. Et moi, c'est là que je le découvre le sport.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que déjà on a ce truc de l'image, comme tu l'as très bien dit, c'était chaque discipline qui était représentée, donc forcément les gens allaient dire ouais, mais un judoka il a cet avantage-là, ouais, mais enfin, je sais pas, tu vois, à chaque fois on avait un petit peu les trucs de chaque discipline, et quand tu regardes aujourd'hui, c'est devenu un sport, on considère ce sport comme l'un des plus complets aujourd'hui, le MMA.
C'est un sport à part entière.
C'est devenu, voilà, des mecs qui sont devenus super complets. Et tu pourras peut-être nous dire un petit mot sur la préparation de ces combattants qui font aujourd'hui de tout pour être prêts à tout une fois qu'ils rentrent dans la cage. Alors, tu as commencé à parler de ces noms-là, de ces noms qui sont devenus des stars, hein. Donc, justement, il y en a qui les ont cités, Crocop, Bob Sapp, il y avait un Japonais, un géant aussi. Non? Peut-être il arrivait plus
Oui.
tard, lui?
Qui s'est pris une clé de bras par Fedor même.
Ah bah Fedor, pour moi, c'est peut-être la plus grosse star de cette époque, non? Je me trompe pas.
Ouais, bah moi c'était mon héros quand j'étais petit. Fedor
Ok.
c'était jusqu'à aujourd'hui c'est un des pour moi c'est un des goats de ce sport. The Last Emperor, ouais c'est alors je vais essayer de te retrouver le nom. Je sais plus le nom, mais ouais il y avait il était géant. Bah d'ailleurs ça avait choqué tout le monde parce que Fedor était ridicule à côté. Et je crois qu'il lui avait mis une clé de bras, en plus il lui avait mis une prise de jiu-jitsu brésilien. Donc, ouais, la star, vraiment la star, c'était Fedor Emelianenko. Il arrivait nulle
D'accord.
part, il a battu Minotaur, il l'a battu deux fois, ils ont fait trois combats. Il a battu deux fois, il y a eu un combat reporté parce qu'ils sont, ils sont mis un coup de tête, donc il y a eu une ouverture. Enfin bref, et en fait, c'était des personnages. Ils représentaient hyper bien la culture de leur pays aussi, tu sais. Alors Fedor, c'était le Russe, qui est super calme, ex, tu sais, Union soviétique, qui disait pas un mot. Son frère, c'était le jour et la nuit avec lui, tu vois, parce qu'il avait un frère aussi, son frère aussi qui combattait là-bas. Enfin bref, c'était super. En fait, pour moi, c'est les combattants qui portent leur sport. C'est les sportifs qui portent leur sport, tu sais. Est-ce qu'on parlerait, on aurait autant parlé de sprint? Sans Usain Bolt, tu vois, c'est ça en fait.
Bien sûr,
En
bien
fait,
sûr.
demain, n'importe quel sport peut péter
Parce que tu as une
après
figure.
parce que tu as un mec qui vraiment qui est polarisant, charismatique et qui met en avant son sport.
Bien
Après,
sûr.
bien entendu, le curling, ça sera jamais aussi intéressant que de regarder du MMA pour moi, tu vois, ou le bowling non plus.
Alors,
Mais
c'était Ong Man Choi,
Ong
le...
Mai Choi, ouais,
Et
exactement, Ong Mai Choi.
c'est un Coréen, c'est pas un Japonais. Honte à moi, c'est un Coréen.
C'était en
Donc.
2007, ouais. Il a mis clé
Et
de bras au
ouais,
premier round. Clé de bras au premier
ouais.
round en 2 minutes, ouais.
Mais moi, je me rappelle surtout de cette image qui ressort de temps en temps où ils se mettent des séries de patates avec, je sais plus qui, avec Bob Sapp peut-être. Ils se mettent ensemble, ils se
Ah,
mettent des patates.
ça,
C'est pas
c'est
lui?
Don Fry. Je crois que c'est Don Fry, ça.
D'accord.
C'était Don Fry. Don Fry contre qui? Je crois que c'était. Alors attends. Ouais, Don Fry contre Yoshihiro Takayama. Ouais. Quand les deux
Ah, donc
s'accrochent
là,
et
c'est
se
un
foutent des
japonais.
frites.
Voilà,
Ouais,
donc là, c'est un japonais. Donc, je me dis, d'accord. C'est
Ouais,
ça.
l'Américain avec la grosse moustache, et le
Oh,
Japonais en face, et les deux s'envoient que des pavés comme ça.
ouais,
Il est
c'est ça.
légendaire ce passage, ouais. Bah, c'est ça en fait, c'est
Et
la com. C'est la com en fait, c'est la com. Et c'est pour ça que je t'ai dit, l'UFC s'est beaucoup inspiré. La com, ça fait tout en fait. La communication, c'est hyper important. Et à l'époque-là, il y avait pas, on n'était pas comme aujourd'hui, je te dis, avec tous ces réseaux sociaux. Et le Pride, ils étaient super forts. Après, ils avaient une force de frappe. C'est dans un pays où les gens adorent les arts martiaux. Ils ont une grosse culture des arts martiaux, tu vois.
le Pride, c'était qu'au Japon.
Ouais, c'était au Japon. Ouais.
D'accord. Et ces combattants-là, ils avaient droit de combattre dans d'autres pour d'autres organisations ou est-ce qu'ils étaient signés pour le Pride et devaient combattre chez le Pride?
Alors, je ne saurais pas te dire, mais écoute, quand tu combats
Je sais
au
pas.
Pride, il n'y a rien d'autre. Bon, il y a l'UFC par la suite, mais j'ai envie de te dire, si tu es combattant du Pride, à cette époque,
C'est le
où tu
top.
veux combattre? Tu vois ce que je veux dire? Où tu veux combattre d'autres, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres. Ils n'ont pas de concurrents. Pour moi, pendant presque 10 ans, de 97 à 2007, ils n'ont pas vraiment de concurrents. Sauf qu'il y a là, il y a une. Je crois que c'est une faillite. Je crois qu'ils sont en faillite. Hein. Si je dis pas de
D'accord.
bêtises, j'ai plus exactement le contexte. Mais, et du coup, l'UFC les rachète, tu vois.
Ah,
Et
l'UFC a
bah,
racheté le Pride, d'accord.
ouais, en fait, on en reparlera après, mais la puissance de l'UFC, c'est qu'ils ont une stratégie takeover. Ça veut dire que eux, ils ont racheté tout le monde. Ils ont racheté le Pride, ils ont racheté le WEC, c'est le
OK.
World Extreme Cage Fighting. Ils ont racheté le Strike Force. Ils ont racheté toutes les grosses orgas en fait qu'ils étaient en train de grimper autour d'eux. Bah, ils les ont rachetés et ils les ont fermés. Et ils les ont fermés derrière. Il y en a qui ont, enfin, je crois que le WEC, ils ont essayé de le faire tourner un peu. Mais après, ils l'ont fermé. Je crois que le Strike Force. Et en plus, dans chaque. Par exemple, au WEC, je crois qu'ils avaient une super catégorie des 66 kilos, des featherweight et des bantamweight. Du coup, ils ont pris tous les. Quand ils ont racheté le WEC, ils ont récupéré tous les combattants, dont José Aldo, une des plus grandes légendes du MMA. Ils ont récupéré, dont José Aldo, qu'ils ont amené à l'UFC. Ils ont fait de lui directement le champion légitime des featherweight. Et ils ont intronisé les deux nouvelles catégories qu'ils étaient au WEC chez eux à l'UFC. Strike Force, ils avaient un gros roster de poids lourd, il me semble. Et quand ils ont racheté Strike Force, bah, c'est pareil, ils ont récupéré une partie des tueurs à gages du Strike Force, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est une stratégie où bah, ils ont racheté tout le monde.
Ok. C'est à peu près quelle période ça?
Quand ils rachètent, bah, c'est
Ouais.
alors 2000, entre 2007 et 2011. Hein. Entre 2007 et 2011, ouais. Et c'est là
D'accord.
que là
Ça
c'est là
explose.
que c'est là que ça explose, tu vois. Après,
Ouais.
et c'est là que t'as les stars qui arrivent, les vraies stars, tu vois.
Est-ce que Dana White, il était déjà aussi mis en avant à cette époque-là?
Non, 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 non. Il n'était pas du tout mis en avant. Après, sa personnalité, elle a évolué dans le temps.
OK.
Sa personnalité, et ce que j'aime bien avec Dana White, c'est que des fois, tu vois, quand tu as des périodes plates comme ça, bah lui, il est charismatique à sa manière, tu vois. Bah lui, il va faire bouger les choses, tu vois. C'est ce que j'aime chez Dana White, c'est bon, c'est un homme d'affaires. Il fait des choix, des fois, moi, je vais rester poli, mais il fait des choix, on va dire, dégueulasses, hein, des fois, des vrais choix dégueulasses.
C'est-à-dire, tu aurais
Mais,
des exemples?
ouais. Un exemple, des exemples, bah, par exemple, juste là, la semaine dernière, Magomed Ankalaev contre Jan Blachowicz, donc titre en jeu des 93 kilos. La décision, c'est un match nul. La décision, c'est un match nul, alors qu'il y a un petit vol. Hein, normalement, Ankalaev, le Dagestanais, doit rentrer avec la ceinture des 93 kilos. Il arrive en conférence de presse, il dit, oh ouais, en fait, c'est déjà mal. Enfin, il annonce un nouveau titre en jeu avec deux autres mecs. Donc il y en a un qui est complètement légitime parce qu'il devait déjà jouer ce titre, mais son adversaire s'est démis l'épaule, enfin bref. Et un autre, Jamal Hill, donc moi personnellement je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là, mais, même si la KT est pauvre, c'est n'importe quoi. Et ben voilà, c'est des actions comme ça que Dana White fait, ça veut dire, je ne sais pas comment te reporter ça, c'est comme si en boxe.
Attends, je vais lire un commentaire. Je me permets de te couper parce que du coup, on a un commentaire qui rejoint parfaitement ce que tu dis. C'est Faco Labuche qui dit bah, la double casquette promoteur-fédération, ce n'est pas intuitive pour nous fans de boxe. Et c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est exactement bah, le pouvoir d'un promoteur qui détient aussi une fédé qui peut se permettre de dire, bon, bah, écoutez, mes boxeurs, là, je vais faire tel titre, parce que ça arrange ma fédération d'avoir ce titre à ce moment-là avec mes combattants. Et c'est vrai qu'en boxe, c'est bien distinct. T'as les fédés, donc on en a quatre, on en reviendra un peu dessus après, et t'as les promoteurs qui s'occupent des boxeurs. Et après, ils travaillent ensemble pour monter des événements. Et là, c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, bah Dana White, il peut faire un petit peu ce qu'il veut.
Mais Dana White, il a fait des dingueries. C'est-à-dire, il a déjà retiré des titres à des gens pour presque aucune raison. Il a aussi, bon, il y a pas mal de faits. Il a pas mal fait parler hein, des propos. Enfin bref, bon, misogyne, énormément misogyne jusqu'à l'apparition de Ronda Rousey, hein, des femmes. Je crois que c'était en 2012. Des propos homophobes. Enfin, c'est un personnage sulfureux, Dana White. Mais à l'UFC. Je saurais pas. En fait, il y a tellement d'exemples, je pense que c'est mensuel. Ça veut dire, Dana White, il fait la pluie et le beau temps, il fait ce qu'il veut. Alors, ça lui appartient pas à l'UFC. Hein. Ça lui appartient pas. Lui, il est président de l'UFC. Il a gardé son poste, malgré que l'UFC a
Il
été
est quand même
revendu.
très impliqué dans l'UFC. C'est comme si Eddie Hearn était président de IBF, tu vois, et que comme par hasard, tous ses boxeurs avaient des titres IBF.
Ah ouais, non, clairement, ouais.
Tu vois, c'est... Voilà, il y
Mais.
a...
Mais c'est important de le savoir, c'est que Dana White, il est directeur. Je pense qu'il est encore actionnaire de l'UFC, hein, mais il est directeur de Dana White. Quelque part, il a des comptes à rendre. Hein. Il n'est pas le patron. C'est pas le patron. C'est pas
D'accord, oui, mais... Il y a
Il est
des
pas tout
conflits
le temps.
d'intérêts. C'est-à-dire que si Dana White, il a des problèmes avec un combattant, il peut lui niquer sa carrière par rapport à l'UFC.
Il claque des doigts, mais il fait ça en plus tous les mois. C'est-à-dire que déjà, il y a des décisions. Après, Dana White, c'est ce qu'il dit. Il dit, les juges qui jugent les combats viennent, par exemple, je ne sais pas si c'est à Las Vegas le combat, c'est des juges de la commission du Nevada. C'est une commission. Donc, il va dire, les gars, vous dites que moi, je fais, par exemple, je truque les combats ou que je voulais qu'un tel gagne ou qu'un tel gagne, mais ce n'est pas possible parce que c'est une commission, ça n'a pas de rapport avec moi, ce n'est pas moi qui trouve ces juges. Et du coup, il va tirer sur les juges, tu vois, quand ça l'arrange. Et quand ça ne l'arrange pas, et quand ça l'arrange, il ne va rien dire du tout quand il y a des vols incompréhensibles comme il y a eu il y a pas longtemps avec Sean O'Malley, tiens, j'ai même pas fait exprès, avec Sean O'Malley ou encore avec Paddy Pimblett. Et comme par hasard, des jeunes qui montent, bon, Sean O'Malley, il y a le niveau quand même, mais des mecs qui montent, qui sont vachement mainstream, enfin, qui sont des stars en devenir, mais qui n'ont pas forcément le niveau pour leur catégorie. Comme par hasard, les mecs, il y a des gros vols, ils gagnent leur combat. Des combats importants. Et bah, enfin, voilà, il y a plein de choses autour de Dana White. Je ne sais pas vraiment comment me positionner parce que en même temps, je suis très admiratif de son travail et le MMA ne serait pas où il est sans lui, tu vois. Mais je ne sais pas si je peux me permettre, tu vois, de dire c'est une mafia ou. Tu vois, je sais pas, je sais pas trop comment me positionner, c'est complexe. Pour moi, c'est un bon homme d'affaires. Sans scrupules. Et d'ailleurs, lui et la boxe, c'est pas le grand amour. Hein.
Ouais.
Comment s'appelle le promoteur de boxe? Pas Eddie Hearn, tu sais, celui qui est vieux, vraiment vieux, vraiment vieux. Bob
Aleman.
Arum.
Bob
Non, c'est
Arum.
Bob
Ah,
Arum.
Bob Arum. Bob
Il
Arum.
me semble alors il déteste Bob Arum. Alors, il sait que c'est un gros tas
Ok.
de merde, il est tout le temps en train de l'insulter.
Ouais,
Et.
d'accord.
Enfin, Dana White, c'est. Donc, la première chose que tu me demandais, c'est est-ce que Dana White, il était autant devant de la scène? Non. Mais l'UFC, c'est Dana White. Et sans Dana White, enfin, Dana White, c'est une star incroyable. À la base, c'est un
Enfin,
manager. Lui, c'est un manager de combattants, à la base, Dana White. Hein.
attends, tu me dis, il n'est pas autant devant de la scène. Moi, j'en entends énormément parler. Dana White, c'est quand même quasiment 8 millions de personnes qui lui suivent sur Instagram. Le gars est super influent.
Dernièrement. C'est ça que je te dis. C'est que tu m'as demandé, est-ce qu'avant, il était
Ah
autant sur le
oui,
devant?
t'as raison.
Moi, je t'ai dit non. Parce qu'il
Ouais.
avait une personnalité déjà, bon, bah, physiquement, il y a tout un truc, hein, faut dire ce qu'il est, tu vois, là, c'est de la com, c'est de l'entertainment. Il paye pas des. Voilà, il a commencé à faire de la muscu, à gonfler. Voilà, tu as compris, les steaks mexicains. Il a commencé à prendre du volume, il a commencé à comprendre que bah, c'est le patron. Il a pris une société qu'ils ont achetée, enfin, que les frères Fertitta ont acheté 2 millions. Ils l'ont revendu en 2016 4 milliards, 2000 fois le prix d'achat. Et ça, c'est en grande, grande, énorme partie grâce au management de Dana White, hein, au choix de Dana White. Hein. Enfin, si tu veux dire, c'est le boss, quoi. C'est le boss. Et quand tu n'as pas une star comme Ronda Rousey, qui est pour moi l'une des premières superstar du MMA ou comme Conor McGregor, et ben c'est lui la star en fait. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. C'est ce qui est bien, c'est comme si quand tu as des périodes creuses comme actuellement où t'as pas un mec polarisant, que t'es pressé de voir combattre et qui combat tout le monde et qui parle pas dans le vide. Et c'est pas le cas en ce moment. On avait Khamzat Chimaev, mais on se rend compte que finalement, ben, faut manager quand même, hein. On peut pas prendre n'importe qui, n'importe quand. On peut parler, mais il faut assumer derrière, c'est compliqué. Et ben là, t'as Dana White, tu vois. Dana White, il est intéressant. Moi, je le vois, par exemple, quand je fais des traductions de Dana White, des fois, je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup plus de vues que de traductions de combattants, tu vois.
Ah oui, d'accord. Ouais, mais les gens veulent savoir ce qu'il va dire, ils sont intéressés.
Ouais, et sa personnalité aussi.
Ouais, et puis je pense
Donc des...
que les gens savent quel poids il a aussi. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller entendre ce qu'il va dire lui, en sachant que c'est Dana White, le promoteur, mais aussi le directeur de l'UFC, plutôt que d'aller écouter un combattant. Finalement, c'est lui, c'est la source directe presque.
Ou d'aller écouter Eddie Hearn ou
Ouais.
Alemon ou machin, parce qu'ils n'ont pas les pleins pouvoirs.
Exactement,
Ils n'ont pas les
exactement.
pleins pouvoirs. Et c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant avec l'UFC, parce que ça, c'est spécial. Parce que c'est pour ça que Dana White est aussi intéressant aussi, parce qu'il fait ce qu'il veut. Et, comme, et en plus de ça, bah c'est un gros gamin. Il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, du jour au lendemain, tu sais, c'est genre du jour au lendemain, tu peux te réveiller, un mec n'est plus, il est viré de l'UFC parce que. Sa façon de parler en interview, on va plus à Dana White. Par exemple, là, il y a une histoire de Paris en ce moment,
Ah
enfin
oui,
bref,
j'ai
de
entendu ça.
triche.
On m'a dit que
Ouais,
c'était
voilà.
un gros truc, quoi.
Bah, il a viré le mec, c'est un ancien combattant de l'UFC. En gros, le mec n'a plus le droit de pointer son nez, et puis je crois qu'il a viré tous les mecs qui étaient à l'UFC que lui entraînait. Tu vois? Et
D'accord.
il fait ce qu'il veut, en fait. C'est pour ça qu'il est
Ouais, il a plein de
intéressant
pouvoir.
aussi.
Ouais. C'est pour
Il
ça
a
que tu
plein de
disais
pouvoir.
mafia tout à l'heure. Tu disais mafia, mais c'est un
Ouais,
peu
mais
dans
tu vois,
l'idée
j'ose
que.
pas utiliser le terme non plus parce que j'ai quand même. Je pense qu'on rend pas assez à César, tu vois. Je pense que les gens, en fait, un reportage vraiment propre sur ce gars, vraiment, tu vois, ça serait intéressant, je pense, de se pencher sur sa vie parce que c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un tueur à gages.
Ouais, mais moi, c'est important ce que tu dis parce que souvent on me dit, ouais, mais l'UFC, c'est beaucoup plus simple que la boxe, c'est beaucoup plus clair. Ouais, mais avoir le monopole comme ça sur presque sur une discipline, parce qu'aujourd'hui, quand on parle MMA, on parle UFC. On fait l'amalgame, tu vois. On parle UFC, on parle MMA. Et donc, c'est quand même un pouvoir qu'il a où, moi, je pense à des combattants, si tu t'entends pas avec lui, bah, ta carrière, elle peut être foutue, quoi. Tu peux pas te retourner vers une autre organisation, tu n'auras jamais autant de visibilité qu'avec l'UFC.
C'est ça, l'UFC, en fait, le deuxième dans la tête des gens, ce que je suis pas d'accord, mais je crois que dans la tête des gens en général, le deuxième, c'est le Bellator.
Ouais.
Pour moi, aujourd'hui, c'est l'ONE.
D'accord.
C'est en Asie, mais dans la tête des gens, c'est le Bellator. Ils sont à des années-lumière. C'est-à-dire, il y a un monde. Genre, il y a un monde entre le niveau général des combattants. Il y a un monde entre la communication, c'est-à-dire quand tu es combattant de l'UFC, tout le monde te voit. Et il y a UFC à côté de ton nom. En fait, c'est simple. C'est comme la NBA et la NFL. Demain, tu es joueur professionnel de basket. On dit, ah ouais, tu es joueur de basket. Ouais, je joue à la NBA. Je joue à la NBA, tu vois. Je joue à NBA. C'est ça l'UFC. L'UFC, c'est la NBA. Est-ce que tu connais une autre fédération que la NBA? Je veux dire,
Non,
je connais.
c'est
Enfin,
la
moi, je connais rien au
fédération
basket,
majeure.
mais pour moi, il n'y a que la NBA, tu vois. Et NBA, c'est pareil, le basket, c'est la NBA, tu vois. En gros, c'est ça. Bon, NBA, c'est peut-être encore plus grave, tu vois, mais il n'y a peut-être vraiment rien d'autre. Mais
Ouais, mais après,
bon,
bon,
MMA, c'est
là
ça.
on compare à la ligue américaine, donc c'est encore un peu
Ouais,
différent, tu
là, c'est
vois.
société privée, ouais, c'est encore
Parce
différent.
que voilà, parce qu'en fait, il faut être américain pour être en NBA,
Ouais,
enfin, tu vois, être sur le
bien
territoire
voir.
américain. Donc, je pense que si on reste dans la comparaison de la boxe et déjà du MMA, c'est déjà plus parlant, et surtout pour les gens qui me suivent, parce que après,
Ouais, l'analogie, elle est
on va s'y
complexe, là.
perdre un
Mais bon,
peu.
je pense
Ouais, mais
ils ont compris ce que je voulais dire, je pense.
déjà, je voulais juste revenir à Dana White. Encore une fois, je vais juste le comparer à Eddie Hearn. En tant que promoteur, Eddie Hearn, il est suivi par 1 200 000 personnes sur Instagram. Donc, vous vous rendez compte déjà que de l'avance de Dana White, c'est assez impressionnant en termes de chiffres. Alors, j'ai pas pu voir sur Instagram les autres organisations dont tu me parlais, qui sont le ONE, c'est ça, le ONE MMA
Le one, ouais.
et le Bellator, c'est ça.
Ouais, le Bellator, ouais.
Mais je vais comparer l'UFC aux autres, aux fédérations de la boxe anglaise, d'accord? Donc, l'UFC, comme je vous ai dit, pour moi, je pense que les gens Quand ils parlent MMA, ils parlent UFC. Clairement, ils connaissent les stars de l'UFC, ils connaissent les champions de l'UFC, ils connaissent Dana White. Et si, regarde, si on compare, par combien de personnes est suivi l'UFC, le compte de l'UFC sur Instagram? C'est 35 millions de personnes. 35 millions 400 000. Écoute bien, si tu prends les quatre fédérations majeures de la boxe, donc qui ont un historique, quand même, ça date. La WBO, c'est 143 000 personnes qui suivent. L'IBF, 10 000 personnes qui suivent. La WBA, 432 000 personnes. Et il y a juste la WBC, c'est pas trop mal, c'est 1,4 million. Alors bien sûr, est-ce qu'ils en font assez sur les réseaux pour monter? C'est la question. Mais ça veut bien dire que l'UFC, ils ont tout compris à la communication et aujourd'hui, c'est suivi par énormément de monde. Ils bouffent les quatre fédérations ensemble de la boxe anglaise en termes de suivi. C'est incroyable.
Et je pense que tu peux même rajouter des orgas de MMA en plus dans le panier en plus autour de deux, tu vois. C'est oui, non, ils sont. Je t'ai dit, c'est un truc qui est vraiment important chez eux, c'est leur com, c'est leur communication. Genre, et la communication aujourd'hui, c'est tellement important, c'est hyper important que pour un combattant ou pour un promoteur. Genre, un combattant, sa valeur aujourd'hui, je dirais pas la majorité de sa valeur, mais j'ai envie de dire presque, je vais pas donner un pourcentage, je vais dire de la merde, mais. Une majorité ou une minorité, peu importe, mais une partie de sa valeur passe par le nombre d'abonnés qu'il a. Je veux dire, Instagram aujourd'hui
Oui.
va dire ta valeur marchande en tant que combattant.
Mais bien
Et
sûr,
l'UFC, si demain
parce
l'UFC
que
doit
c'est
te
des
recruter, ils vont
potentiels
jeter un œil.
acheteurs. C'est des
Voilà.
potentiels acheteurs de pay-per-view, de public, évidemment.
C'est ça.
Et ben justement, je regardais là le One, donc que tu considères comme la deuxième, hein, c'est ça, deuxième organisation
Pour
pour
moi, ouais.
toi. Et ben c'est quand même 7 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. C'est balèze. Et le Bellator, ben, tu vois, 3 millions. Donc en termes de chiffres sur Insta, bah, le One est devant. Et le One, c'est eux qui avaient payé Floyd Mayweather hein, pour faire un one shot. C'était eux, d'accord, qui avaient fait ce coup de com. Donc ouais, donc clairement, les fédérations, les organisations de MMA, bah, on peut dire qu'ils ont tout compris pour vivre dans leur temps, quoi.
Exactement ça.
On
Ils
va
sont en
s'attarder
avance.
sur les stars actuelles, parce que je t'ai demandé. Et tu vois, et alors là, ça m'a surpris hein, ce que j'ai trouvé. Parce que je t'ai demandé les stars du MMA actuellement, ok? Tu t'en rappelles. Et donc, tu m'as donné. Alors, je sais pas si tu me les as donné dans l'ordre, mais en tout cas, tu m'as donné 5 stars. Et donc, je suis allé voir un peu leurs chiffres. Alors, Conor McGregor, 46 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Khabib Nurmagomedov, 34 millions. 34 millions. Israel Adesanya, 7 millions de personnes. Francis Ngannou, 4 millions. Et John Jones, que j'ai trouvé juste à la fin parce que j'étais passé à côté de son Instagram, c'est 6 millions de personnes. Et moi, je m'étais dit, je pense que en anglaise, c'est au-dessus. Eh ben, je me suis bien trompé. Je me suis bien trompé. Putain, j'ai pris une claque, hein. Alors, bon, on va quand même donner Floyd Mayweather, qui est la figure de la boxe anglaise, hein. Aujourd'hui encore, il reste actif, tu vois. Donc, 28 millions de personnes le suivent. Donc, c'est quand même bien en dessous de Conor McGregor. Anthony Joshua, 14 millions. Canelo,
Et
14 millions.
c'est deux
Ryan
fois moins
Garcia, 9.
c'est deux fois moins que Khabib. Je te coupe, hein, mais c'est deux fois
Ouais,
moins que Khabib.
mais ouais, t'as raison, c'est fou. Et Khabib, c'est pas non plus le mec qui se met le plus
De
en
la
avant sur les
com,
réseaux, tu
non,
vois.
non. Et c'est un
Clairement.
Daghestanais qui vient des montagnes du Daghestan.
Voilà. Et Ryan Garcia, 9 millions. Tyson Fury, 5 millions. Voilà, je tenais quand même à en donner 5-5 parce que je pense que c'est intéressant, tu vois, qu'on ait ces chiffres en tête. Moi, je trouve ça ouf. Et même à l'échelle française, parce que je pense que c'est bien de donner deux noms français, on va comparer ben, les deux figures, Tony Oka et Cyril Gane. Et ben, c'est le double pour Cyril Gane. Tony Oka, c'est 400 000 personnes. Cyril Gane, c'est 900 000 personnes. Donc, c'est plus du double. Comment t'analyses ces chiffres, toi?
Ben c'est simple, comme je te le dis depuis, on en a parlé plein de fois, je te dis, visuellement, déjà visuellement, le MMA, c'est beaucoup plus vendeur que la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est. Je compare à mon sport, le jiu-jitsu brésilien grappling. Visuellement, c'est mieux de regarder du grappling que du jiu-jitsu brésilien. Tu vois, les mecs, ils se tiennent le kimono, ils bougent plus. Toi, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est nul. Eh ben, c'est pas, la boxe anglaise, c'est rare. Franchement, c'est. Vraiment, c'est rare de voir un combat, enfin d'être non pratiquant, de pas trop connaître, de regarder, de dire waouh, ouais, c'est un bon combat, de rester scotché. Et MMA, tout le monde va regarder.
Ah ouais, tu
Et en
trouves?
plus, bah ouais, la boxe anglaise,
Ah,
c'est complexe quand même. Il y a, tu sais, regarder 12 rounds de deux gardes hermétiques qui n'ont le droit d'envoyer que les points.
Je
Franchement,
sais
c'est...
pas. Moi, tu sais, des fois, quand je regarde un combat de MMA, je les vois au sol, ça me saoule.
Ouais, eh ben écoute, je savais que tu allais me dire ça. Mais ce qui...
Vas-y, dis-moi.
je savais que tu allais me dire ça, mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du public MMA est éduqué au sol. Éduqué au sol, à la lutte et au grappling, tu vois. Donc la lutte, la transition entre la boxe et le sol en lui-même. Et le sol, c'est le grappling au sol. Et ça, c'est en grande partie grâce à Khabib Nurmagomedov, tu vois, qui est venu et qui a battu Conor. Enfin, il y a eu cette rivalité de fou. Et en fait, les gens vont y regarder. Et c'est aussi ce qui a fait que ce sport a pété, hein. C'est que les gens s'offusquaient de regarder des combats d'MMA aussi à cause des phases de lutte. C'est-à-dire, regardez, ah, c'est
Oui,
chiant, les mecs
c'est
sont
ce qu'ils
collés à
disent
la
dans le
cage.
chat là. C'est ce qu'ils disent.
Sauf qu'aujourd'hui, les gens comprennent la complexité du catch control, par exemple, tu vois, du jeu contre la cage, comprennent que c'est un sport à part entière, qu'il y a toute une technique. Et tu as une ribambelle, bah déjà, tu as les commentateurs bah, qui s'y connaissent et qui expliquent au public qui regarde, bah, regardez, là, il est en train de faire du judo, là, c'est un uchimata, ah, bah là, regardez, là, c'est de la lutte, ça, c'est un double leg, donc attaque sur deux jambes. Et du coup, bah, les gens sont de plus en plus éduqués. Ils regardent, ah ouais, et au sol, le jiu-jitsu brésilien qui commence à péter aussi. Ah bah là, il est dans la garde, là, il est dans telle garde, là, il essaie de faire une clé de bras. Et même en France, tu vois, les commentateurs, ils essaient d'expliquer. Et après, pareil, tu as les youtubeurs, tu vois. Moi, je suis premier à tout le temps parler longtemps de grappling, de tout ce qui se passe dans un combat
Ouais,
dans
et
les
c'est
phases au
vrai que bah,
sol.
tu vois, moi par exemple, je te comprends bien quand tu parles de MMA sans pour autant tu vois suivre. Je vais écouter de temps en temps tes vidéos parce que tu sors du contenu, mais comme je connais pas les combattants, je vais pas toujours cliquer. Mais quand je vais écouter un sujet, bah, c'est vrai que tu arrives assez bien à me retransmettre ce qui se passe techniquement. Tu as une assez bonne pédagogie. Je suis d'accord avec toi, les commentateurs de la boxe anglaise, c'est vrai que comme ils prennent ça un peu pour acquis, la boxe anglaise, et puis il y a moins de complexité. La boxe anglaise, tu as beaucoup moins de coups, tu vois, que tu peux mettre. Il y a beaucoup plus de restrictions. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus simple visuellement à suivre. Donc, je pense que partant de ça, les commentateurs se foulent pas. Il faut reconnaître que les commentateurs sont aussi pas très bons. Voilà, on va pas se mentir, ils sont pas ouf. Et parce que bon, c'est les télés françaises où chacun a sa place. Et c'est des mecs qui font le foot, le football américain. Ils sont là, ils parlent de MMA, ils parlent de boxe.
Exactement. Ouais.
Alors pardon, j'enlève le MMA. Dans le MMA, du coup, je pense qu'ils essaient de faire attention à avoir
Non,
justement, comme c'est un nouveau
il y a
truc,
des mecs
ouais.
du foot, il y a des mecs du foot aussi.
Ok. Mais dans l'ensemble, tu trouves quand même qu'ils sont un peu meilleurs?
Ouais, bien sûr. En fait, la boxe, moi, quand j'écoute. Alors, j'écoute aucun commentaire en français, peu importe le sport. J'écoute
D'accord.
aucun. J'écoute tout le temps en anglais. Parce que
Ok,
je les
ok.
trouve 20 fois meilleurs que nous. Tu vois. Sur tout, tu vois, sur le rythme, la façon. Tu vois, des fois j'écoute en français, c'est surexagéré, tu vois. Genre,
Ah
j'ai
ouais.
l'impression qu'ils veulent imiter ESPN, mais ça sonne super faux. Des fois, je vais écouter des commentaires, par exemple, sur Canal Plus en boxe anglaise. Bon, c'est très rare maintenant, mais ben, je ne vais pas donner de nom, mais tu as un ancien boxeur qui parle, là, tu vois, et puis qui a déjà une idée reçue dans sa tête sur le gagnant. Enfin. Il n'y a pas de vrai professionnalisme de journalisme, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, il y a ça
Ouais,
aussi, tu vois.
ok.
Les gens.
Alors, je sais pas si tu parles de Fab, mais moi je l'aime bien. Après, j'entends le côté un peu parti pris et idée un peu à l'avance. Après, bon, cette chaîne, moi je la soutiens pas du tout, hein. Je pense que ça sait sur ma chaîne YouTube que cette chaîne télé, je la trouve catastrophique, surtout pour la boxe. Et ils sont tournés complètement vers la Formule 1 de toute façon aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ils ont invité des YouTubeurs pour parler de F1 sur leur chaîne YouTube. La boxe, bizarrement. Ça s'est jamais fait, hein? Non, 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 ça, surtout pas. Alors qu'ils ont investi beaucoup d'argent quand même dans des combattants français. Mais bref, allez, c'est un autre débat. On était sur la qualité des propos tenus par les commentateurs. Donc je suis d'accord avec toi. Attends, parce que je perds le fil. Il y avait des choses que je voulais dire par rapport
Ouais,
au côté
alors attends,
spectacle. Alors, ouais,
j'étais en
vas-y,
train de
vas-y.
dire,
Vas-y.
t'étais en train, moi aussi j'ai perdu le fil du coup. Ouais, bah voilà. Bah vas-y, bah débrouille-toi dans ta sauce. J'allais te dire quoi? Mais la F1, si je te jure, tu devrais regarder, c'est super intéressant la F1. Si t'as pas regardé la série Formula One sur
J'ai
sur
regardé,
Netflix,
j'ai
bah
regardé.
franchement, c'est excellent. enfin bref.
Ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de F1,
Oui,
merde.
le truc, c'était vraiment, ouais, pourquoi les gens regardent plus le MMA, les stars de MMA sont plus suivies que les stars de boxe anglaise. Et du coup, t'avais parlé en dernier de Tony Oka et Cyril Gane. Tu vois? Bon, on peut pas bloquer sur Cyril Gane et Tony Oka, on va rester sur Khabib, Conor, Canelo, machin, parce que Cyril Gane et Tony Oka, ils ont des personnalités intrinsèquement, ils sont complètement différents.
Ouais.
Et Cyril Gane, j'ai envie de te dire, c'est presque si on s'était posé autour d'une table et on avait dit, venez, on fabrique l'athlète parfait pour que les Français l'aiment, bah, t'aurais Cyril Gane qui aura apparu, tu vois.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce qu'il n'est pas
Bah oui.
travaillé, sa communication? Est-ce que c'est pas travaillé?
Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense
Tu penses
pas.
qu'il est tombé au bon moment? C'est le bon gars au bon
Ouais, non.
moment qu'ils
Non,
ont
ça
bien
a l'air d'être
utilisé?
un gars qui en a. Je pense que c'est un. Enfin, je le connais pas du tout, mais j'ai pas l'impression. Et je regarde beaucoup ça, tu vois. Je bloque beaucoup sur ça, sur la personnalité quand
Ouais.
les gens ils en font trop ou pas. Enfin, c'est ça qui va faire que j'accroche. J'accroche pas avec quelqu'un ou
D'accord.
qui va forcer sur la com, qui veut trop en faire, pas assez. Enfin bref. Et lui, non, je trouve que non, non, j'ai pas l'impression. Je pense qu'il en a. C'est pas quelqu'un qui va travestir ses valeurs, tu vois. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un gars, il est exactement comme il veut être. Il dit ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, son coach, Fernand Lopez, il en a déjà parlé. Il a déjà dit qu'il lui avait demandé en interview, en post-fight, de dire ça. Ou dans la cage, je sais plus. Et que lui, lui a dit, l'a pas dit. Et après, lui a dit, bah, attends, tu voulais que je dise ça, mais je peux pas dire ça, tu vois. Donc non, non, je pense pas. Mais bref, pour pas bloquer sur eux, pourquoi les mecs sont beaucoup plus suivis? Ben parce que pour moi, encore une fois, le MMA, c'est le sport qui va parfaitement avec notre époque. C'est-à-dire, on est dans une époque, encore une fois, où tout va vite, on consomme vite, et les gens n'ont pas envie de se mettre assis devant 12 fois 3. Ils ont envie de voir des gros KO. Il y en a beaucoup plus en MMA, des KO, ça statistiquement, tu peux le voir. Il n'y a pas de compte, d'accord, en MMA, c'est-à-dire que l'arbitre ne vient pas arrêter le combat parce qu'un Un combattant est touché, compte, et lui donne l'opportunité de repartir plusieurs fois. Ça n'existe pas, ça, en MMA. Ça veut dire que quand tu es
Ouais,
touché,
on arrête plus vite qu'en boxe anglaise.
voilà, tu es touché, le mec peut venir sur toi, tout faire pour t'allumer. Donc là, l'arbitre peut intervenir pour donner un KO technique. Hein. Techniquement, tu es à la ramasse, donc il arrête le combat parce que c'est dangereux pour toi. Ou alors tu te fais KO, ou alors tu te fais soumettre.
C'est
Tu peux
soumettre,
te
voilà, il y a
faire.
plus de possibilités d'arrêter
Il
le
y a
combat
une.
aussi. C'est pour ça que dans l'ensemble, il y a plus d'arrêts, mais c'est parce qu'il y a plus de possibilités d'arrêter un combattant.
C'est ça. Après, il y a les catégories aussi. En boxe anglaise, tu as beaucoup plus de catégories. Tu as 7 kilos d'écart dans la plupart des catégories en MMA, tu vois, 70 kilos, 77, 77 à 84. Ensuite, 84 à 93, tu en as 9. Tu as 9 kilos d'écart, tu vois. Donc déjà, il y a moins de catégories. Ça veut dire que en plus de ça, tu as un panel morphologique, ça veut dire que tu te retrouves avec des mecs qui sont super grands, longilignes, et qui sont des strikers, comme par exemple Israel Adesanya, en face de mecs qui ont fait 30 ans de lutte, comme Yoel Romero, qui sont petits, mais qui sont des tas de muscles. Et on retrouve un peu ce truc du Pride, où je t'avais dit, et la com là-dessus, avec chacun représente son continent et son sport, et on appuie grave là-dessus. Et la boxe anglaise, quand deux gars s'affrontent, demain Errol Spence et Terence Crawford, tu peux faire la com que tu veux. On peut pas dire Terence Crawford, bah, les deux sont américains déjà, premièrement. En plus, tu peux pas dire, ouais, il y en a un, il est vraiment plus musclé, l'autre, il est plus grand, mais du coup, il est plus grand, donc il va garder la distance. Les mecs, ils ont les mêmes physiques. Tu peux pas dire, ouais, mais il y en a un, il vient du judo, et il y en a un, il vient du karaté, donc tu verras que du coup, il y en a un, il va plus vite, et l'autre, s'il l'attrape, il est mort. Il y a tellement de choses, en fait, qui font que forcément ce sport, et c'était sûr qu'un jour, et je pense que ça va pas s'arrêter là, tu vois. Et la boxe anglaise, je pense pas que ça disparaîtra parce que c'est là depuis la Grèce antique, enfin même avant, tu vois, ça a
Mais oui, bien
toujours été
sûr.
là. Mais en vrai, si tu regardes même le MMA, ça a toujours été là, tu vois, c'était Pancrace avant. Quand il y avait la boxe, ça s'appelait Pugilat à l'époque, bah, il y avait le Pancrace, il y avait la
Bien sûr.
boxe avec la lutte, tu vois ce que je veux dire? Ça existait aussi, sauf que la boxe, voilà, il y a des mecs qui ont inventé, il y avait la boxe à main nue, enfin on va pas refaire l'histoire de la boxe, mais la boxe est arrivée beaucoup plus tôt. Et
Non, bien sûr, mais de toute
bref.
façon, le MMA devait arriver un jour. En fait, c'est juste que c'est une discipline qui s'est plus longtemps cherchée avant d'arriver à un petit peu à son aboutissement, à son prime un peu aujourd'hui. Je vais juste reprendre un peu le fil de notre point là qu'on est en train d'aborder sur le fait que les sportifs dans le MMA sont plus populaires. Il y a ces chiffres, mais ces chiffres, ils peuvent être un peu trompeurs. Et je vais donner un argument, c'est que la boxe, c'est quand même le sport plus de nos pères, de nos darons, tu vois. Il est suivi par nos pères. Et nos darons, ils sont pas sur Instagram.
Exactement.
Donc, certes, la nouvelle génération, qui est la génération des réseaux, on en parlait très bien au début de podcast, bah, eux, ils vont voir que le sport mode, c'est le MMA. Donc, ils vont aller chercher les stars et ils vont s'abonner à leur Instagram. Ce qui explique aussi cet engouement par rapport donc, aux chiffres qui sont un peu gonflés. Je pense comme toi que la boxe reste un sport qui culturellement ne peut pas couler. Et le MMA, c'est un sport qui devait arriver. Dans tous les cas, il devait être sur le devant de la scène. Et c'est un sport qui va encore évoluer. Voilà, c'était juste pour donner un petit contre-argument par rapport aux chiffres. Parce que... Et le fait qu'on s'ennuie devant la boxe anglaise, moi, j'ai du mal à accrocher à ton argument. Et j'ai vu que dans le chat, ils n'étaient pas aussi tout à fait d'accord. C'est vrai qu'au très haut niveau, la boxe aujourd'hui est dans une ère où elle est devenue très technique. Et quand tu râlais sur le MMA dans ta génération, bah moi, je vais râler aussi sur la boxe actuelle où je vais beaucoup dire qu'on a des boxeurs comme Devin Haney qui sont tellement léchés techniques que on en a un peu marre, tu vois, et on veut voir un peu plus de spectacle. Et je pense que même le MMA va avoir tendance un petit peu à se brider parce que ben, les enjeux vont devenir de plus en plus énormes. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Je vais te donner un contre-argument aussi à ce que tu viens de dire. Bah déjà, je vais apporter un nouveau truc, c'est que le following aussi vient du fait que l'UFC, quand tu es combattant de l'UFC, te pousse indirectement, mais tu as compris, à travailler ta com. Ça veut dire, si tu trash talk, si tu fais parler de toi, tu iras plus vite au titre, tu gagneras plus d'argent. Il sera bien vu par leur gars, par Dana White. Donc il y a aussi de ça. Il y a une culture du trash talking dans le MMA qu'il n'y a pas dans la boxe anglaise. C'est-à-dire que dans la boxe anglaise, c'est une honte de trash talker. C'est une honte. Parce que c'est une noble art. C'est les valeurs, comme tu as dit, des darons. Et voilà, tu as compris. Et c'est. Même si on a eu Mohamed Ali et compagnie. Les 3, 90%. Tu sais, ce qui m'impressionne, c'est des fois quand j'écoute des interviews. La dernière fois, j'écoutais une interview de Terence Crawford, je crois que c'est Ariel Helwani. Les interviews des boxeurs. Ils ont tous l'air hyper cultivés. Ils ont l'air super intelligents. Ils sont très intelligents dans leur façon de répondre, dans la façon dont ils gèrent leur carrière. Et ça se comprend parce qu'en fait, ils sont pas dans le même. Ils sont pas dans même, bah, je vais pas dire dans pas le même mood, mais c'est eux qui se gèrent en fait. Tu vois, ils sont leur propre entreprise, tu vois. Ils sont pas, ils appartiennent pas à une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est eux qui se vendent avec leur manager. C'est eux qui négocient directement. En fait, c'est pas le même système que l'UFC. C'est ça qui fait aussi que les combattants à l'UFC, ben, par exemple, je prends l'exemple d'un Colby Covington, qui était très humble, détaché, qui parlait pas, qui était ennuyeux dans les combats parce qu'il gagnait grâce à sa lutte et qu'il étouffait les combattants, qu'il mettait pas de KO. Il a compris qu'on allait le virer. Il a affronté un Brésilien au Brésil. Il a pris le micro. Il a insulté les Brésiliens. Comme ça, au milieu de l'octogone, au Brésil, au milieu de milliers de gens et de Brésiliens, au milieu de milliers de Brésiliens, il a insulté tout le monde parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse parler de lui pour rester dans l'organisation. Ça a marché. Ça a marché, c'est devenu une star. Aujourd'hui, ben, qu'on l'aime ou pas, parce qu'une majorité ne l'aime pas pour ses décisions politiques et ses sorties en interview, enfin, il insulte à tout va, il respecte personne, mais ça, c'est le personnage qui s'est créé. En tout cas, on parle de lui. Il a quand même du star power et il est encore dans l'orga et il a fait plusieurs fois la ceinture. Et ben voilà quoi, il rentre de l'argent.
Alors, juste,
Et
est-ce que c'est pas... Ouais, vas-y, vas-y, finis.
ouais, vas-y, dis-moi.
Non, je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est un super argument que tu as donné, mais je me dis, est-ce que c'est pas plus simple en interview d'envoyer du pâté quand l'histoire, elle est un peu toute tracée parce que tu es signé à l'UFC, tu sais que tu vas affronter tel combattant, tu vas aller à la ceinture. Donc, du coup, quand tu te retrouves interviewé, les questions sont plus directes, tu vas pouvoir être plus franc, tu vas pouvoir jouer ton personnage. Les boxeurs sont dans un univers, évoluent dans un univers qui est beaucoup plus flou, beaucoup plus complexe. Il y a quatre ceintures, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut cette ceinture. Tu t'es classé dans les différentes fédérations. C'est pas les mêmes challengers entre la WBC, la WBO, l'IBF, la WBA. C'est pas le, tu vois, tu peux être quatrième là, dixième là, vingtième là-bas. Donc forcément, quand t'es en interview, c'est un peu compliqué de te situer. Même pour les journalistes, bah, c'est compliqué de poser les bonnes questions. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que c'est ça. Je pense que vraiment la mentalité des boxeurs est différente. Leur valeur, leur façon, leur mentalité est vraiment différente. C'est-à-dire que je pense que c'est des gars qui ont encore aujourd'hui des valeurs du travail et qui préfèrent s'exprimer sur le ring plutôt que s'exprimer, même si ça ferait augmenter leur cote. Et aujourd'hui, on le voit. Il y en a nombreux qui auraient pu le faire et qui ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, quand des mecs ouvrent leur gueule, ils sont sur le toit du monde. C'est-à-dire Tyson Fury, il a une grande gueule en interview. Il dit, enfin voilà, et
Enfin,
encore,
il
il
n'aide
dit.
pas Tyson Fury, hein. Il n'aide pas.
Ouais, mais et encore, si
Et
t'analyses ce qu'il
encore, il dit
dit,
pas vraiment
il
les
est.
termes.
Bah, non, franchement, si t'analyses ce qu'il
Hein.
dit, il est pas vraiment. Il manque pas vraiment de respect. Voilà, il est quand même drôle, mais le gars, il est sur le toit du monde. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Il est au-dessus de tout le monde, tu veux hisser le soleil, tu peux rien lui dire. Et oui, j'ai voulu apporter un contre-argument dans le sens où tu me disais que dans le chat, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec moi et je pense que tu partages leur avis sur le fait que le MMA, la boxe anglaise, bah, c'est ennuyant. Dis-moi, demain, moi, j'arrive et je connais pas la boxe. Je pense pas connaître énormément d'ailleurs, mais je connais pas trop la boxe.
Quand même, arrête. On
Non,
parle de
mais
temps en temps, tu connais.
ouais, vite fait. Mais j'ai eu une période boxe en 2008, 2009, 2010, je crois, Mayweather, mais vite fait, vite fait. Mais dis-moi aujourd'hui quel personnage. Dis-moi aujourd'hui, je viens dans la boxe, je t'ai dit, vas-y, dis-moi quelqu'un, vas-y, je vais regarder de la boxe un peu, j'y sais, donne-moi un combattant que je vais suivre. Mais dis-moi qui tu vas me. Vas-y, donne-moi un nom.
Jake Paul.
Non, mais arrête. Tu veux te faire insulter dans les
Non,
commentaires.
Gervonta Davis, franchement, tu vas te régaler. Ryan Garcia, c'est pas mal. Nous, on le
Non, mais
critique
j'aime.
beaucoup parce pour les puristes, mais c'est des mecs où ils vont te donner quand même du spectacle. Avec ces deux-là, tu auras du
Non, mais
chaos, tu auras
d'accord.
de la bonne boxe.
D'accord. Mais Gervonta Davis, c'est seulement maintenant qu'il devrait affronter les gens qu'on veut qu'il affronte. Là, je te parle en tant que personne qui connaît un tout petit peu la boxe. Là,
Ouais.
c'est. Un autre problème qu'il faut mettre en avant, parce que on va parler un peu de boxe, vos combattants, ils s'affrontent pas.
Bah justement, tiens, attends, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui dit le problème, c'est que en boxe, ils s'affrontent pas, alors qu'en MMA, ils le font. Voilà, c'était justement ce sur quoi je voulais t'emmener.
Bah, il n'y a pas de problème.
On te propose Canelo, Shakur Stevenson, Golovkin, Naoya, Wilder.
Non,
Il y en
mais
a
la
grave en
réponse.
vrai. Attention, attention, parce que là, tu les as énervés, là. Je te rappelle que c'est sur les
Non.
podcasts de boxe attitude. Hein.
Non, mais
Vas-y,
d'accord, je
vas-y,
vais
enchaîne,
suivre.
enchaîne.
Moi personnellement, je vais suivre Canelo. J'aime bien. J'aime bien Canelo. Enfin, voilà. Je le trouve défensivement, tout. Je trouve qu'il est trop fort. Enfin, travail au corps. Enfin, bref, je peux regarder un combat de Canelo. Ce que je veux dire, c'est que quand tu connais pas la boxe, tu te poses avec des chips devant la télé, avec des potes le soir. Enfin, je sais pas, c'est dur de regarder un combat de boxe 12 fois 3. Moi, c'est mon avis. Hein. Alors que tu peux regarder un 3 fois 5 en MMA où il peut se passer genou sauté dans le crâne. L'arbitre ne viendra pas intervenir, à moins que le combat soit fini. Il peut avoir des étranglements, il peut avoir des slams, il peut avoir des clés de talons. Enfin, il peut avoir du sang partout. Le combat continue. Il peut se passer énormément de choses. Et il n'y a qu'un champion dans la catégorie. Et des catégories, je crois qu'il y en a 13 si tu comptes les femmes. Et il n'y a qu'un
Non, mais il n'y
seul
a qu'un
champion.
champion parce que c'est l'UFC qui a pris le monopole.
Ouais, mais
Avec
c'est ce qui fait
avec une manière de faire qui est limite mafieuse, ce qu'on a dit en début
agressive.
de
On va
podcast.
dire une stratégie agressive.
Voilà,
Mais
alors que tu dis qu'il y
c'est.
avait le One, qui est une super
Ouais,
organisation, et donc qui est un peu
d'accord,
à la trappe à cause de ça.
mais nous. Nous, parce que moi, des fois, j'en parle avec des gens, ils me disent, ouais, mais l'UFC, j'aime pas quand ils font ça. Dana White, j'aime pas quand il fait ça. Et moi, je dis aux gens, écoute. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je partage avec toi des valeurs sportives, machin. Mais moi, je travaille tous les jours de l'année. Le soir, quand je regarde l'UFC, moi, je veux voir des guerres, je veux voir du sang, je veux voir des combats, je veux voir un haut niveau technique, je veux du drama, je veux qu'il se passe des trucs. Je veux être hypé, je veux être le lundi, il y a un combat le samedi, je veux me dire, waouh, vivement samedi. Ça, c'est rare. C'est devenu super rare, en ce moment, en tout cas, dans le MMA. Et dans l'anglaise, ça n'existe presque pas. Pourquoi? Parce que y a, je ne sais pas. Personnellement, là maintenant, je suis incapable de dire Bivol s'il a telle ceinture, Beterbiev quelle ceinture il a. Je sais La seule chose que je sais, c'est qu'Inoue, il a tout. Sinon, je serais incapable de dire qui a quoi. Dans le MMA, il n'y a qu'un champion. Et le champion, quand il a la ceinture, il a les points pay-per-view. Ça veut dire que le champion, le mec qui a la ceinture, bénéficie d'une partie des ventes du pay-per-view. Donc, quand tu as la ceinture, tu gagnes beaucoup plus d'argent que le numéro 1, le 2, le 3 et le reste. Tu es vraiment rentré dans les sous et tu as vraiment gagné. Là, tu es vraiment dans les sous. Et encore, c'est minime à côté de l'anglaise par rapport à ce que tu produis et par rapport à l'entraînement que tu fais, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Enfin, bref, tu connais. Et il n'y a que le champion qui a la ceinture et que le champion qui gagne de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et le champion, il est érigé grâce à leur communication. Il est érigé en. Il a un star power de fou. Il est érigé en. C'est un héros. C'est. C'est un monstre, quoi. Alors qu'en anglais, j'ai l'impression qu'il y a 40 champions WBC. Je comprends rien. Des fois, je vois des combattants dans le ring. Ils ont des ceintures WBO, WIB, IBF, WBA. Et je me dis, mais putain, dans la catégora, c'est pas lui.
Ça
Après,
va, on
je
a compris,
t'entends.
on a compris, on a
Non, mais je
compris.
t'entends en podcast. Je t'entends en podcast. Des fois, je t'entends dans tes vidéos. Tu dis, c'est la ceinture intercontinentale, c'est la ceinture silver. Et moi, je comprends rien. Et c'est pour ça que je regarde plus de. Je suis plus le truc. Et je me dis,
En fait,
quoi, ceinture?
aujourd'hui,
Après, il y a la ceinture WBC Méditerranée. Je crois qu'il y a la ceinture WBC. Enfin, il y a... En fait,
oui.
c'est pour ça que. Enfin, voilà, c'est le business à bouffer
Mais bon,
l'anglaise,
attends,
quoi.
tu veux perdre tout le monde là? Attends. Donc déjà, il y a Faco Labuche qui dit que pour suivre qui a les ceintures, il faut juste s'abonner à Box Attitude. Voilà, tout simplement. Donc je tiens à signaler son commentaire que j'ai trouvé
Je
très
suis
bien.
abonné et je regarde toutes les vidéos et je connais et je sais pas. Donc il y a un
Non, mais
problème.
après, les ceintures aujourd'hui dans la boxe anglaise sont devenues, on va dire, un argument pour être challenger. Donc, c'est-à-dire que maintenant, au lieu de dire challenger, on va dire il est champion WBC Silver, et patati patata. Bref, c'est devenu un peu cet argument. Dans la boxe, les ceintures aussi servent beaucoup à faire des affiches. C'est-à-dire qu'on va faire une affiche de boxe, et pour vendre l'affiche au public, on va dire, ouais, mais il y a telle ceinture en jeu. Donc, c'est clairement de la communication, de l'image. Elles n'ont pas un grand intérêt sportif. Il n'y a que les ceintures majeures qui sont importantes. Par contre, on va revenir sur le débat qu'on a lancé, c'est le fait que les gens ne s'affrontent pas. Okay? Les boxeurs ne s'affrontent pas. Bah justement, cette année, ce qu'on a pu constater dans la boxe anglaise, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'unification totale, donc de boxeurs qui réunifient les quatre titres majeurs. Et je pense que ça, c'est dû au fait que justement l'UFC a beaucoup marqué les esprits du public et que les gens
Exactement.
aiment avoir un seul champion. C'est beaucoup plus clair dans leur esprit. Et je pense que ça pousse les organismes de boxe à se dire, écoutez, les gars, faut qu'on fasse des efforts. C'est vrai qu'on se fait beaucoup de blé à avoir notre champion chacun de notre côté. Mais au moins, une fois de temps en temps, il faut qu'on ait un mec qui soit le champion unifié. Et après, on rebalance les titres. Et je pense que ça, c'est grâce à l'UFC que c'est en train de se faire dans la boxe.
Mais dans la boxe, il n'y en a pas beaucoup. Il y a qui? Il y a Canelo,
Il y en a
il y a
quatre cette année, je crois.
il y a Jermel.
Canelo, Jermel, Devin Haney, Inoue, et je crois que j'en oublie pas. Hein.
Donc ouais, il y en a quatre. Et
Mais
encore.
il
Et
y a eu pas mal
allez,
de
mais.
champions qui ont au moins trois ceintures. Donc non, quand même, tu vois, il y a pas mal de catégories. On n'est plus qu'à un combat de l'unification totale. Non, il y a du progrès. Il y a du progrès dans la boxe anglaise quand même.
Oui, et je pense que ça vient. Et moi, j'ai vu Canelo attendre. Attendre en coulisses à cause de l'UFC, tu vois. Donc bien sûr. Canelo, il a attendu en coulisses à que le main event, je ne sais plus quel UFC, finisse pour pouvoir aller combattre. Donc, bien entendu que c'est sûr que l'anglais s'est inspiré de l'UFC. Et l'UFC, ils sont, enfin, après
Elle a
c'est leur,
été poussée.
ouais.
Mais après, moi, je trouve ça beau aussi, les combats d'unification avec des champions qui s'affrontent entre champions. Moi, je trouve que ça a un côté excitant, justement. Si demain, tu te disais, ouais, on n'a pas de combat ou on attend le truc, bah, demain, tu fais Beterbiev Bivol, champion contre champion, c'est stylé. J'aimerais bien qu'il y ait ça en MMA, tu vois, le champion du Bellator qui affronte le champion de l'UFC. Moi, je trouverais ça stylé.
Ouais, mais il y a un monde dans le niveau, c'est ça le problème. Il y a un autre truc, c'est que l'UFC, ils détiennent. T'as des pépites dans plein d'orgas, mais l'UFC, vraiment, ils ont leur top 15 dans presque toutes les catégories, je dirais, hormis la catégorie poids lourd et les poids mouches, parce que les poids mouches en Asie, il y a que des tueurs. Et les poids lourds, il y a des poids lourds un peu partout, très forts, qui pourraient aller dans le top 10 de l'UFC demain. Ils ont tous les meilleurs, ils ont les meilleurs des meilleurs. Dès que tu as un mec qui perce dans une orga, qui est invaincu ou qui est proche de l'invaincu, qui roule sur les gens, je peux t'assurer que le lendemain, il a l'UFC. Et ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, stratégie takeover. L'UFC surveille tout. et il n'y a personne qui monte.
Attends, il faut qu'on aborde un autre point qui, je pense, qui est quand même super intéressant et je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est l'argent. Parce que ça a fait pas mal polémique, surtout avec Francis Ngannou, cette histoire de ouais, on n'est pas assez payé chez l'UFC. Et on sait qu'en boxe anglaise, oh, ils se font un fric fou. Hein. Quand on compare bah, Tyson Fury, ce qu'il a gagné cette année en faisant des combats éclatés, à un Francis Ngannou qui a fait, qui a, bah, je pense que Ngannou, on peut dire qu'il a affronté les meilleurs de sa catégorie. Je pense qu'il a fait le ménage. Hein. Tu vas nous le confirmer ou non?
Ah bah oui, il a fait le
Ouais,
ménage,
ok.
ouais, c'est les
Ok.
termes.
Et donc, en sachant que l'UFC, c'est bah, une machine à fric, on dit que c'est hyper suivi. Dana White, il est hyper célèbre. Voilà, il y a du monde, il y a de l'argent. Comment ça se fait qu'il y a encore un écart aussi important entre l'anglaise et l'UFC, et le MMA?
Parce que l'UFC, c'est une entreprise privée, tout simplement, et que les combattants de l'UFC sont des salariés. Et en anglaise, le business plan, ce n'est pas exactement le même. C'est-à-dire que en anglaise, quand tu es un combattant, tout à l'heure, je te parlais de Terence Crawford, qui parlait, j'en parle tout le temps, mais quand j'écoute un combattant d'anglaise parler, enfin, c'est du miel comparé à un combattant de MMA, en général. Hein, en général. Mais c'est leur propre patron, en fait. C'est leur propre patron, ils gèrent leur image, ils gèrent tout. Alors qu'à l'UFC, tu as un pack complet, tu arrives et ils s'occupent de tout, quoi. Ils s'occupent de tout, tu fais tes interviews, tu n'as pas besoin toi, tu dois plaire à l'UFC. Et puis voilà, et tu dois surtout, important, gagner tes combats, et là, le salaire va monter. Mais le salaire, pourquoi? C'est à cause de ça, tout simplement. Parce que le combattant, par exemple Tyson Fury, quand il combat, il met presque tout dans ses poches. Ngannou, il gagne même pas $1 million à son dernier combat, alors que il est le champion poids lourd de l'UFC, la catégorie reine, donc il est censé être sur le toit du MMA, le toit de l'UFC. C'est la catégorie la plus haute, il est le champion, il éclate tout le monde, et il est même pas à 1 million. Ça gagne 30 fois plus que lui à côté en anglaise, bah parce que c'est simple, les mecs, ils ont signé un contrat. Ils ont signé un contrat avec une entreprise. C'est comme, je te donne un exemple, je te fais une analogie dans le rap. Jul, le rappeur Jul, il est multimillionnaire parce qu'il a toujours été en indé, toujours indépendant. Donc même au début, quand il vendait pas beaucoup de disques, il gagnait beaucoup d'argent parce que c'était presque tout dans sa poche. Et un mec, je sais pas, qui va signer en maison de disques, bah, il va gagner beaucoup moins parce que la maison de disques va s'occuper de tout, même de la communication. Et toi, tu n'as pas besoin de faire d'efforts sur ta communication quand on t'interview. Tu as même presque une ligne éditoriale qui est indirectement faite par la société qui t'engage, par ton entreprise. Ça veut dire que, comme je te disais tout à l'heure avec Colby Covington, ils veulent que tu dises de la merde. Et vas-y, dis de la merde. Donc le mec, il y a un moment, il est là et il dit, bon, bah, vas-y, je vais dire de la merde. C'est ça la différence, c'est que les boxeurs en anglaise, pour moi, c'est des rappeurs en indé. Les combattants de MMA, c'est des mecs signés en major. En gros, l'analogie, si je peux faire une analogie comme ça, quoi.
Non, c'est une bonne analogie. Et je trouve aussi que, comme tu l'as bien dit, une fois que tu es engagé à l'UFC, bah, tu as signé le pacte avec le diable, donc tu es un petit peu mort. Et aussi, tu n'as pas d'échappatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, bon, bah, je vais aller au Bellator, je vais gagner autant. Non, c'est mort. Alors que dans la boxe, ils ont ce truc de pouvoir dire, oh, bah, la ceinture, bah, tu sais quoi, garde-la, j'en ai rien à foutre. Je vais faire ma carrière de mon côté, je vais aller défier un autre champion, tu vois. Et c'est
Exactement.
vrai qu'ils sont plus coincés dans l'UFC. Un sujet qu'on a légèrement abordé, mais qui est quand même hyper important et qui explique pourquoi le MMA, je trouve que ça fonctionne bien. Tu as parlé du côté spectacle. C'est vrai que ça s'apparente quand même à une bagarre. Alors, attention, hein, je précisais, une bagarre, mais d'athlète de ouf, tu vois. Vraiment de super-héros, tu vois. C'est des athlètes complets. Moi, j'admire les athlètes. Du haut niveau de l'UFC, hein. C'est des athlètes hyper impressionnants. Donc, ça serait une bagarre, mais genre de Avengers. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
Donc,
non
il y
mais
a un
oui.
côté spectaculaire, hyper excitant. Tu dis, mais ces mecs-là, ils sont pas humains. C'est pas possible, ils sont pas humains. Et ils nous donnent une bagarre de la plus brute possible parce que presque tout est possible, tu vois, dans l'affrontement. Donc, il y a un côté, c'est vrai, très spectaculaire. Et surtout, un autre argument pour moi qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus suivi, le MMA, c'est la capacité à nous raconter une histoire. Des fois, moi, je vais suivre un combat de MMA, pas parce que je vais suivre la discipline, pas parce que je connais spécialement un mec, mais parce qu'on m'a raconté une histoire, on m'a raconté une rivalité, on m'a raconté le parcours d'un mec. Et ça, ils le font très bien dans le MMA.
C'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le drama. Ils arrivent à construire un truc. Ça veut dire, souvent, des mecs qui jouent la ceinture, ben, ils s'entraînaient ensemble avant. Souvent, par exemple, là, dernièrement, on a eu Alex Pereira qui est venu rafler le titre à Israël Adesanya en moins 84 kilos. Adesanya a roulé sur tout le monde. Pereira, il arrive au bout de trois combats, il est déjà face à Adesanya pour le titre. Il a une route bien pavée, avec stylistiquement des mecs qui sont pas censés pouvoir le battre, et il finit devant le champion et il éteint le champion. Et ça a été monté de toutes pièces et on était tous hypés, et moi le premier, parce qu'il s'était déjà affronté en kickboxing il y a 10 ans en arrière. Ouais, c'est la capacité pour ça. Et tout revient à la com, la cage, hein, l'octogone aussi, c'est hyper visuel. Tu montes dans une cage, alors que c'est avant tout pour protéger les athlètes, parce que tu peux pas faire un takedown, une amenée au sol de lutte. Tu fais ça dans un ring, tu finis dans l'étape VIP avec la nuque brisée, tu vois. Donc c'est tout, en fait, il y a tout est rassemblé pour les physiques. C'est pareil, il y a une différence de physique. En anglaise, on met tout le poids sur le haut du corps, tu vois. Il faut être léger sur les jambes. Les mecs, ils ont des cannes à sucre comme jambes. Ils ont un gros short long qui arrive jusqu'au genou. C'est pareil. C'est aussi, on peut en parler au niveau visuel. Les combattants de l'UFC, il y en a beaucoup. Ils ont des physiques hors normes. Ils font des gros cuttings. Enfin, je vais pas dire c'est à la mode, mais c'est. Enfin, c'est les trois quarts des combattants font des cuttings, ils arrivent tous avec des physiques parce que c'est le physique, ça joue beaucoup, surtout sur quelqu'un qui ne regarde pas les arts martiaux, pas le MMA, mais les arts martiaux. Je sais que j'ai remarqué quelqu'un qui regarde pas les sports de combat, qui s'y connaît pas en sport de combat, la première des choses qu'il va regarder, c'est le physique. Ça veut dire, moi, on m'a déjà parlé de Conor McGregor, on savait pas c'était un poids lourd. On m'a déjà dit, ah, tu connais le mec là, l'anglais McGregor? Ouais, c'est un monstre, lui, il combat, c'est un poids lourd, alors qu'il combattait à 66 kilos, tu vois. Et à l'époque, et on m'a déjà dit, c'est un poids lourd. Et moi, je réagis pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Il fait 1m73, tu vois. Je réagis, non, c'est pas un poids lourd. Il y a des catégories de poids, c'est juste un 66 kilos, tu vois. Il peut pas affronter un poids lourd. Et c'est les gens qui regardent pas les arts martiaux, il y a aussi ça, le physique. Et en anglaise, ben. Le rythme, tu vois, t'as deux mecs collés, gardés hermétiques, comme je te disais tout à l'heure, t'as deux longs shorts, les mecs, ils ont des cannes. Bon, après, t'as des mecs, ils ont des beugeants, hein, des vrais beugeants. Mais c'est beaucoup plus esthétique. La tenue aussi, il y a aussi cette histoire de tenue, ils ont tous les mêmes tenues. Il y a juste une couleur qui diffère, un équipementier, tu vois. Tout est fait, en fait. Les gants, c'est des gants de 4 onces, tu vois, des mitaines de 4 onces. Donc, tout est fait, il y a tout un truc. Mais ouais, c'est ce que je te dis, tout ça fait partie de la com. Tout ça, c'est une
Ouais,
histoire de
ouais.
com.
Et encore une fois, je pense que la boxe anglaise va s'inspirer de l'UFC parce que clairement, on va dire que c'est l'UFC qui gère super bien ça, toute cette communication, ce côté storytelling, tout ça. Et je pense que, comme tu le dis bien, les boxeurs, ils parlent bien, ils s'expriment bien. Donc il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas eux aussi à vendre leur histoire. Et à mon avis, sur les années à venir, ils vont s'inspirer beaucoup de l'UFC. Comme tu parlais de Conor, je me permets de te faire un petit clin d'œil, une petite dédicace à l'une de tes dernières vidéos en podcast avec ton ami Kakarot, c'est ça?
Cacarotte,
Ouais, voilà, où vous parliez du retour de Conor. J'ai beaucoup aimé votre échange. Je trouve que vous formez un bon duo. Donc voilà, je me permets de rappeler que donc tu fais des podcasts aussi comme ça. Et bah, les gars, si vous suivez le MMA, allez suivre sa chaîne YouTube parce qu'elle est vraiment top. Vous avez le lien en description de cette vidéo.
merci,
Et
merci.
je voudrais revenir à un autre point et on pourra peut-être finir sur ce point, sauf si bien entendu à la fin tu as encore des choses que tu veux développer, il y a aucun souci. Mais le point que j'aurais aimé sur lequel j'aurais aimé que tu donnes ton avis, c'est bah, le MMA en France. On a vu qu'en très peu de temps, parce que ça s'est légalisé, en très peu de temps, c'est devenu le sport incontournable, c'est-à-dire que on a vu une émergence de médias indépendants qui en parlent, notamment le tien. On a vu des chaînes télé qui sont mis à faire des reportages, des films sur des événements, vraiment une ampleur extraordinaire, tu vois, et des trucs bien faits, tu vois. Bon, faut dire qu'aujourd'hui sur YouTube, tu trouves de la qualité, les chaînes télé y mettent les moyens, et on a commencé à avoir des figures françaises qui ont commencé à naître. Mais il faut être franc. On est encore loin du très haut niveau mondial, au niveau du MMA en France. Hein. Voilà, je donne mon avis, mais j'ai l'impression qu'on est encore quelques marches. Et pourtant, malgré ça, on a eu l'UFC qui est venu à Paris organiser un truc extraordinaire. Voilà, donc ils sont venus en France Ils ont mis des Français à l'affiche. Tous les Français, en plus, ont gagné, hein, si je me souviens bien. Moi, j'étais comme un ouf. J'ai regardé cette soirée. J'étais hypé dans une ambiance extraordinaire et avec des figures françaises, du Made in France. Et c'est l'organisation américaine qui est venue. Ils les sont fait venir en France. Et je trouve ça incroyable. Alors, raconte-nous un peu.
Alors déjà, je vais tirer un peu sur la boxe. Est-ce que tu penses que je vais te poser la question même, je vais te mettre dans une petite sauce. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les combattants de MMA français dans leur sport sont meilleurs ou pas que les combattants de boxe anglaise dans leur sport français?
Ah, je connais pas assez, ça serait difficile.
Bon, moi j'ai la réponse. Vas-y, je vais te sortir de la sauce. Donc tu me disais qu'on a un peu du mal. Alors, par rapport à l'histoire de la France, au fait que la France, ça fait quoi? Ça va faire depuis janvier 2020, ça a été légalisé le MMA. Donc, c'est pas grave parce qu'on pouvait s'entraîner avant, mais il y a tout un contexte qui fait que, bien entendu, les médias et compagnie, enfin bref, le sport n'a pas la légitimité qu'il devait avoir et il commence à l'avoir seulement depuis ces dernières années. Donc, déjà, il faut prendre ça en compte. C'est un sport qui est interdit dans ce pays. Prendre en compte qu'il y a on est un peuple, la France, c'est un pays de sport et de beaucoup de sports différents, beaucoup, beaucoup. Tu vois, tu as des pays où le sport national, c'est le MMA, tu vois. La France, il y a énormément de pays de sport et on n'est
De sport,
pas énormément d'habitants non plus. Tu vois, il y a quoi, 66 millions, 70 millions d'habitants en France. Donc, si on prend toutes les proportions là comme ça, je trouve qu'on est très bien. Et en plus, on est très bien dans tous les sports qui regroupent le MMA, même si ça se dit plus aujourd'hui parce que le MMA est un sport à part entière. On a des légendes du judo, on a des champions olympiques en lutte. Les gens le savent pas, peut-être pas, mais on a des champions olympiques en lutte. On a des légendes du taekwondo, des légendes des tueurs en karaté dernièrement, champions en karaté, champions olympiques. Enfin bref. On est un peuple de Muay Thai et de K1. Hein. Il y a une grosse vague pieds-poings et on a des grands champions avec le Pays-Bas et la Thaïlande. On est, je pense, dans les trois plus gros pays du pieds-poings mondial. Hein. Allez, on va peut-être rajouter le Japon si on met le K1, mais bon. Donc, tout ça pour dire que non, on est très bien. Et je pense que les combattants d'ailleurs de MMA, aujourd'hui, si tu prends la masse, on est plus performant en MMA qu'en boxe anglaise, personnellement.
Alors,
Et en
attends.
plus de ça, pour avoir. Alors, non, j'ai pas fini. Tu vas pas me
Range
couper.
mon frein là, j'ai envie de répondre.
Tu me coupes pas. Même si ça te gratte, même si ça te gratte, tu me coupes pas. Attends.
Et tu parles trop
Et en...
longtemps.
Attends, je tire une dernière balle et je te laisse parler. Et en plus de ça, je viens de me taper Mbili puis Sissoko là. On en a parlé en privé. Et je peux te sortir plein de noms, mais bon, on va pas. Voilà, mais je peux te sortir plein de noms aujourd'hui de mecs dans le MMA français qui sont vraiment bons. Et malgré les conditions qu'ils ont eues ces dernières années et dans les conditions qu'ils évoluent encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Et je pense qu'à l'avenir, la France va faire mal en MMA. Et un autre truc, c'est oui, moi je parle de MMA, mais je parle très peu de MMA français. Enfin bref, voilà, je te laisse,
Ah ouais, ça je
vas-y.
sais. Bah, ça, après, voilà, ça t'as tes raisons aussi. Mais attends, parce que là, je me suis fait vanner dans le chat parce que tu m'as posé la question et j'ai bégayé. J'ai parlé chinois, force chinois, comme tu dis. Mais les hommes mentent, mais pas les chiffres. D'accord? Si tu prends le top 20 mondial de presque toutes les catégories de boxe anglaise, et il y en a beaucoup, on a des Français. Depuis plusieurs années, on a toujours au moins un champion du monde. Actuellement, on en avait deux encore avec la Française qui s'est fait retirer son titre injustement, mais on a encore Arsène Boulamirian qui est champion du monde. À ce que je sache, les Français en MMA ne sont pas aussi bien classés et on n'a pas de champion du monde. On est d'accord, oui ou non?
Non, alors, attends. Attends.
Non,
Est-ce que tu.
réponds à ma question. On a des champions du monde en MMA ou pas?
Oui, on a des champions du monde.
Ah ouais? Ah merde.
Bien sûr. Alors. Excuse-moi,
Putain.
mais on a
Ah,
même
je
des
crois qu'on
doubles.
va être
Alors.
coupé.
Attends. On a même des doubles champions du monde. Tu vois? Donc, alors. Arsène Goulamirian, ouais. Bon, déjà.
Attends, sors-moi pas des ceintures ou des fédérations que
Non, non,
personne
non, mais
connaît,
on
hein,
va.
parce que moi aussi, je peux pas
Déjà.
sortir des
Non,
ceintures
non, mais
en
tranquille, on
boxe.
va pas se mentir. La WBA, c'est pas la fédé la plus. Voilà, c'est la WBC,
La WBA, c'est la plus ancienne, hein.
Celle de Ilunga, ouais, t'as des arguments, mais excuse-moi, les lourds légers. Usyk, qui a fait de la une roue sur les lourds légers, il est parti chez les poids lourds. Enfin bref, on va pas détailler parce que moi, Arsène, je trouve ça un tueur à gages. Mais quand même, il faut que je défende un peu le MMA quand même. Mais Arsène, c'est un tueur à gages. Il est champion du monde de WBA. C'est un monstre. En plus, il a défendu son titre là, il n'y a pas longtemps. Et en plus, ils n'ont pas mis un rigolo en face. Mais bref, on a des champions du monde, bien sûr. Et on a eu des champions du monde. Donc, au même titre qu'il y a plusieurs fédérations en anglaise, il y a plusieurs organisations MMA. Dernièrement, on a Saladin Parnasse, qui est double champion du KSW. Donc, le KSW, qui est une des plus grandes organisations du MMA. Et en termes
Et
de
tu m'as dit qu'il y
niveau.
avait un monde d'écart avec l'UFC. Tu
Oui.
l'as dit toi-même.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un monde d'écart. Mais j'ai dit que dans certaines organisations, il y avait des pépites par-ci, par-là, qui pouvaient rentrer dans le top 10 de l'UFC. Notamment, je te parlais des poids lourds pour le top 10. Mais en fait, il faut vraiment rentrer dans le sujet. Si tu veux rentrer dans le sujet, oui, on a des champions du monde. On a eu des champions du monde du Cage Warrior. On a eu un champion du monde intérim, je te l'accorde. C'est un titre plus commercial, pas honorifique, mais plus commercial qu'autre chose, Cyril Gane, on a personne Cyril Gane, qui a perdu contre le champion
Arrête,
actuel à la
tu peux pas me dire,
décision.
tu peux pas me dire intérimaire. Non, non, là, reconnais qu'on a plus de Français en boxe anglaise qui ont des titres et qui sont plus haut placés au niveau mondial.
Non, je dis juste que. Non, non, mais. Alors.
Non, mais
Non,
c'est pas non,
non,
c'est la
non,
réalité, c'est les
je
chiffres.
reconnais qu'Arsène Goulamirian est champion du monde. C'est tout ce que je reconnais en vrai. Et que moi, et je reconnais que Arsène Goulamirian est champion du monde et que nous aussi, on a un champion du monde. Voilà, c'est tout ce que je reconnais. Après,
Non,
si le
non, non,
niveau
tu...
général, pour moi, le niveau général, ça veut dire que par exemple, à l'UFC, on a Nassourdine Imavov, là, qui va faire un main event, qui est dans le top 15 de l'UFC. Il va faire un main event la prochaine carte, là, au mois de janvier, contre Kelvin Gastelum. Il a l'UFC, il est dans le top 15 aussi des poids moyens. On a, comment elle s'appelle? Marion Fiorot, qui va peut-être jouer le titre en 2023 aussi, le championnat du monde aussi. Et tout ça dans une organisation où, comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de ceintures, il n'y a pas beaucoup de champions. Enfin, la liste, elle est longue, on en a plein des combattants. On a Benoît Saint-Denis chez les lightweight, on a Fares Ziam. Enfin bref, pour moi, le niveau général des combattants français de MMA est plus haut que le niveau général des combattants d'anglaise. Après, c'est mon avis, hein, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de combattants en anglaise français sur le circuit mondial. Sur le circuit mondial, il y a qui? Il y a Sissoko qui arrive, il y a Mbili qui arrive, qui est bien
Non, non,
classé. Je crois que
il y
c'est
en a,
Mbili
il y en
mieux
a, il y en a.
classé.
Ils sont pas très connus, mais on en a pas mal. On a pas mal de Français qui sont dans le top 20 mondial de leur catégorie respective. Vraiment.
Ah, mais ils
Mais
sont bizarres, le top
malheureusement, pour
20.
la. Ouais, mais parce qu'il y a beaucoup plus. Je pense qu'il y a beaucoup plus de combattants dans les catégories de boxe anglaise.
C'est ça aussi, c'est un peu. Et il y a plein de
Voilà.
fédés, puis il y a plein de classements. Et
Ah, mais
vas-y, classement.
je
Classement,
parle
oui.
juste des
Il y a
boxeurs pro.
même la ceinture ring. Enfin, il y a même un magazine qui a une ceinture, tu vois. Enfin, c'est.
Oui, bon, ça suffit. On a déjà parlé des ceintures, d'accord? Ne reviens pas dessus, d'accord, s'il te plaît. Mais regarde, si tu prends juste les poids moyens, il y a 1300 professionnels en boxe.
Là, je suis
Tu
d'accord
vois,
avec toi.
donc il faut quand même remettre par rapport à ça. Je trouve que les Français en boxe, ils se démerdent plutôt pas mal, surtout quand tu sais à quel point c'est le bordel la boxe en France.
Non, je suis
Que
d'accord avec toi. Ouais.
c'est vraiment la merde,
Après,
tu vois, chez.
il y a 1300, mais là, comme
Juste en
je te disais
super
tout à
moyen.
l'heure, il y a ce que je te disais tout à l'heure, quand je t'expliquais tout à l'heure que pour moi, le niveau mondial du MMA au niveau français, le niveau des Français en MMA est plus haut que le niveau français en anglaise. Mais je t'avais expliqué tout un contexte avant, dans lequel c'est un sport qui a été légalisé depuis seulement 3 ans, dans lequel c'est un sport déjà qui existe depuis peu de
Ça
temps.
c'est vrai.
Et c'est ça que je te dis. Et l'anglais, ça fait 100 ans que c'est mainstream, et ça fait 2000 ans avant Jésus-Christ que ça existe, et qu'il y avait combien de licenciés
Non, mais
FFBOX? Je veux dire, prends les nombres de licenciés FMMAF aujourd'hui, la Fédération française de MMA, ou alors FFL, enfin bref, tous ceux qui font du MMA en France, ou même CFJJB. Licenciés qui vont faire quand même du MMA à côté, licenciés en jiu-jitsu brésilien. Si tu prends, on est à des années-lumière encore de l'anglaise au niveau des licences. C'est un truc qui vient
bien
d'arriver,
sûr,
c'est
bien
légalisé
sûr.
depuis 2 ans et regarde
Ça,
le
c'est vrai.
niveau qu'il y a déjà. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je te dis qu'on ne rentre pas dedans, parce que si on rentre vraiment dedans en détail, c'est complexe. Et un autre truc, c'est que les top 20 en anglaise, C'est spécial. Tout à l'heure, je te disais que Nassourdine Imavov, s'il n'est pas moyen, il est top 15. Ben, il est top 15 mondial de la plus grande truc au monde. Il n'y a pas de blabla et on ne parlera pas de top 15, tu vois ce que je veux dire. Et je te disais qu'il y avait des individualités, comme par exemple Saladin Parnasse, qui est double champion du KSW, donc qui est champion du monde d'une organisation en dessous de l'UFC, mais qui a un niveau général très haut. Donc ça, c'est juste que c'est une orga qui est moins grosse que le One, par exemple, pour moi et le Bellator, mais du niveau général, ça se pèse avec le Bellator notamment. Et ben, ces individualités comme Saladin Parnasse, qu'on parle de vrai niveau. Moi, je ne te parle pas de classement. Je te parle de niveau, le niveau qu'on connaît, qu'on voit visuellement, on sait. Saladin Parnasse, demain, tu le mets à l'UFC dans le top 15. C'est un tueur à gages. Tu vois ce que je veux dire? Et on a plein d'autres mecs derrière qui arrivent. C'est pour ça que je te dis que pour moi, le niveau général, et puis Cyril Gane, il sera peut-être champion de l'UFC en poids lourd, il sera peut-être champion bientôt. Et Manon Fiorot sera peut-être
Inch'Allah,
champion.
Inch'Allah, on le souhaite, hein.
Et voilà, Inch'Allah, il sera peut-être champion de l'UFC bientôt. Il y en a plein encore, William Gomis. Enfin, moi, j'ai pas les noms, tu vois, mais il y a énormément de. J'ai pas tous les noms. Mais c'est
Non,
pour
non,
ça
mais
que je t'ai dit que le
t'as bien
niveau
argumenté.
général. T'as des champions, Morgan Charrière, qui est au Cage Warrior, qui est quand même une star. Il
Ah oui.
y a plein de mecs, hein, il y en a partout. C'est pour ça que je te dis que le niveau. Et regarde même, bon, rien à voir, mais en pied-point, tu vois, au One, Sami Sana, tu vois ce que je veux dire? C'est une star de fou aussi. Même si c'est plus une star là-bas qu'ici, c'est une star. Enfin bref, c'est pas du MMA non plus, mais c'est dans une organisation de MMA en général. Mais bon. En gros, je pense que je peux défendre. Tu t'as bien défendu, hein, mais je pense que si on rentre vraiment dans le truc. Et en plus de ça, ils sont absolument pas connus, les gars dont tu me parles, parce que moi je les connais pas. Je connais Sissoko,
Oui,
Mbili, Tony
mais
Yoka,
c'est
et
aussi pour
voilà.
ça que je tenais à en parler, parce que y a plein de gars, si tu regardes, par exemple, tu regardes dans Super Moyen, on a pas mal de Français qui se débrouillent, enfin, tu vois, Kevin Lelessadjo, qui est en train de monter et qui s'est fait tout seul, on en a beaucoup, et c'était aussi une manière un peu pour moi de leur rendre hommage, parce qu'avec tous les combattants professionnels qu'on a en boxe, parce que c'est un sport, comme tu l'as bien dit, qui existe depuis très longtemps, et donc forcément, il y a plus de, à travers le monde, il y a plus de combattants. Eh ben, malgré qu'on ait un petit pays de boxe, parce que ça, il faut le dire, on est un tout petit pays de boxe qui n'a jamais eu une fédération comme l'a fait l'UFC, enfin jamais, en tout cas sur ces dernières années, qui vient faire un événement en France pour la boxe, tu vois, la boxe dans le monde, la France dans le monde de la boxe, ils s'en foutent complètement. Les pays s'en foutent complètement, ils ont un mépris pour les Français, et de
Mais c'est qu'il n'y a pas
voir que
d'argent. Mais
pour
c'est
un
parce qu'il n'y a pas
pays,
d'argent.
ouais, mais pour un pays qui a légalisé le MMA depuis si peu de temps, ce que les combattants de MMA français ont réussi à amener, c'est assez exceptionnel.
Mais
Et
c'est
tu l'as
ça.
bien expliqué, tu as bien expliqué que ces mecs-là, c'est des mecs qui ont du talent, qui ont grimpé, et donc ils ont amené ça. Et c'est quand même fou quand tu, bah justement, quand tu compares les historiques des deux disciplines, qui sont deux disciplines très différentes. Je voyais passer les commentaires dans le chat depuis tout à l'heure qui disaient, oui, il y a des trucs où on compare, mais c'est deux disciplines différentes. Oui, c'était un peu ce que je voulais amener un peu en conclusion de cette vidéo, c'est que qu'on compare quand même deux sports qui sont très différents, et pour moi, ça serait un peu comme comparer finalement le foot et le rugby, tu vois. Donc on est face à deux disciplines qui sont très différentes, et je pense même que le public, au fil du temps, va être différent. Il y aura le public du MMA, il y aura le public de la boxe anglaise, et je pense pas qu'ils se bouffent tant que ça l'un l'autre. Et au
Mais il y a
contraire,
les
ils
deux.
s'inspirent, ils
Il y a
s'aident.
les deux. Moi, personnellement, quand je parle de MMA, je parle donc avec les gars vraiment que je connais, vraiment geek du MMA, et ben on parle des deux. On parle d'anglaise et de MMA. On parle des deux. Donc les deux vont ensemble pour moi. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire, des fois,
Non,
tu as
mais
des
il y a des
super
points
soirées
à faire, ouais.
boxe et la soirée MMA, elle est un peu nulle. Enfin, voilà. Et des fois, c'est le contraire. Non, mais c'est vraiment c'est des sports qui sont c'est très différents. C'est vrai en plus. Mais bon, on voulait analyser la différence en termes de sport business, enfin, en termes de business, de communication. C'est ça que tu voulais savoir. C'est pourquoi, en gros,
Ouais, mais
l'UFC
c'était
bouffe.
super.
Pourquoi l'UFC est en train de bouffer la boxe. Mais en vrai, ce n'est pas l'UFC qui bouffe la boxe pour moi. C'est un sport à part entière qui pète. Et la boxe, j'ai envie de te dire, quelque part, elle se bouffe tout seul. Elle se bouffe tout seul aussi. Parce qu'elle n'a pas su se renouveler. Et aujourd'hui. La boxe, les grands moments de la boxe, qui fait aujourd'hui encore parler la boxe, c'est Mike Tyson, Mohamed Ali. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent d'anglaise, ils arrivent encore à parler de Mohamed Ali et de Mike Tyson. C'est-à-dire
Eh oui.
des personnes. C'est pour ça que je te disais au début de la vidéo, c'est les athlètes qui portent leur sport. C'est vraiment les athlètes qui portent leur sport. Et un sport, il brille, comme en 2015 avec Conor McGregor dans le MMA, il brillera jamais autant que quand il a une star. une vraie star. Comme Usain Bolt avec le sprint. Qui c'est qui regardait le sprint? Les gens se sont mis à regarder le sprint parce qu'il y avait Usain Bolt. On voulait voir s'il allait gagner facile ou s'il allait un peu galérer pour gagner. Et enfin voilà, c'est comme ça. C'est des athlètes qui portent leur sport. Et à un moment, si par exemple, tu as un athlète dans un sport qui se plaint de ne pas être assez payé, ben, peut-être qu'il n'a pas compris comment fonctionne le business et comment l'argent arrive. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas compris ça. Il faut vendre des tickets, il faut que les gens cliquent. Sinon, il n'y a pas d'argent. Personne qui va te ramener d'argent. Et pourquoi? Comment tu vends des tickets et que les gens cliquent? Eh ben, il faut que tu fasses quelque chose, mec. Il faut que tu fasses le premier pas. On ne peut pas tout faire à ta place. Tu vois, même si techniquement, tu es stratosphérique. Tu vois, je prends l'exemple d'Arthur Beterbiev en boxe. Il n'est pas stratosphérique techniquement. Tu vois, genre, bivol techniquement, c'est un
Si,
délire. Tu
si.
vois.
Beterbiev, il est aussi très bon techniquement. Attention, hein.
Ouais, non, mais
On
genre.
a un peu tendance à voir que son côté destructeur. Mais regarde justement, bah, contre l'Ukrainien, j'ai mangé son nom, Gvozdik, qui faisait partie de l'école Lomachenko. Très grand technicien. Il l'a empêché complètement d'exprimer sa boxe. Complètement. Donc, mais en tout cas, c'est un bon exemple. Vas-y, vas-y, continue, excuse-moi.
Ce que je disais, c'est Beterbiev. Et encore, tu vois, lui, c'est l'exemple du mec que je te disais qui va conserver ses valeurs, tu vois, qu'ont la majorité des boxeurs. Tu vois, quand je pense qu'une fois, il a refusé même d'aller jouer à un championnat du monde parce qu'il est musulman, il a refusé d'aller en Chine, ou je sais plus, il y avait
C'est
une
vrai.
histoire comme ça.
Quand il y avait l'histoire des Ouïghours, il a
Voilà,
renoncé
tu
à
vois.
son combat contre son challenger chinois.
Ça, tu le verras pas à l'UFC. À l'UFC, ils vont lui dire tu vas faire l'UFC Chine. Le mec, il va dire ok, je suis combienième sur la carte. Non, mais c'est réel, tu vois. Je dis pas que les combattants et de MMA n'ont pas de valeur. Hein. Pas du tout ce que je dis. Je veux dire,
Oui,
c'est pas
oui.
le même. T'as compris?
J'ai compris, ouais.
Beterbiev, c'est un monstre, mais il y a personne qui sait que c'est un monstre. Et à quelque part, on peut pas qu'en vouloir aux promoteurs, on peut pas qu'en vouloir aux chaînes de télé et aux médias. Il faut se poser des bonnes questions et se dire, ouais, mais mec, tu fais pas le taf. Ne serait-ce que mettre une story sur Instagram pour que les gens te suivent, quotidiennement voir ce que tu fais, les inspirer, leur donner envie de s'entraîner, leur donner envie de regarder ce que tu fais le jour d'après, le jour d'après. Tout ça, en fait, c'est du commerce. Tout ça, c'est du commerce, en fait.
Bien
Et
sûr.
c'est tout, c'est tout, ça passe par là, en fait. Et à un moment, bah, la boxe anglaise, la mentalité générale de la boxe anglaise, bah, elle souffre. Enfin, non, la boxe anglaise souffre de sa mentalité générale de cette, tu vois, cette mentalité un peu vieille école. Tu vois, moi, je me rappelle en anglaise, parce que moi, j'ai fait de l'anglaise pendant quelques années. Quand tu boxes en anglaise, excuse-moi, mais et bah, après, j'ai eu le même ressentiment quand je boxais en Muay Thai, mais un gala de boxe anglaise, moi, j'étais dans des galas de boxe anglaise, tu boxes dans un cirque, tu t'échauffes derrière les chaises. Il y a trois vieux dans le public qui te regardent, il fait froid, le parquet du ring il est défoncé, les cordes elles tiennent même pas, t'es dégoûté de ta vie, t'as même pas envie de faire d'anglaise, tu vois ce que je veux dire? Le mec il te met des jabs, il court partout, il te met des jabs, il court partout, tu perds au point, t'as même pas compris pourquoi. Il y a un truc comme ça, un peu vieux jeu, tu vois, que j'ai retrouvé par exemple à la lutte. À la lutte, je tape plus sur la fédération de lutte. Où ben, il n'y a pas de changement parce que c'est vieux jeu. Non, on ne peut pas faire ça. Bon, aujourd'hui, ils ont compris. Ils font du grappling fight, c'est du MMA, tu vois, sur leur fédé. Ils font du grappling, ils font du sambo. Mais il y a un, et chez, dans boxe anglaise, c'est ça aussi que je retrouve, tu vois, qu'on ne retrouve pas en MMA. En MMA, on ne le retrouve pas. MMA, c'est
Non,
un
mais.
sport qui va avec son époque, qui a évolué avec son époque et qui va avec cette époque. La boxe anglaise ne va pas avec notre époque. Et comme tu disais, les mecs qui suivent la boxe anglaise, c'est nos darons. Et nos darons ne vont pas sur Instagram. Ben, si tu ne vas pas sur Instagram, tu ne follows pas, ben, il n'y a pas d'argent qui rentre. Parce qu'il n'y a pas de sponsor
Ouais,
pour
c'est
les
vrai.
combattants. Enfin, c'est tout un truc comme ça. On ne va pas expliquer aujourd'hui comment fonctionne l'économie, mais on se plaint, mais gros, on se plaint, mais gros, c'est le sport qui est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Personne ne regarde le curling. Ah ouais, mais peut-être que si demain au
Qu'est-ce que
curling
t'as
les mecs
contre le
se jettent.
curling?
Non, mais peut-être si demain les mecs se jettent les briques dans les genoux. Et s'il y a ligament croisé, t'as gagné la partie, j'en sais rien. Ou peut-être qu'au curling, tu rajoutes une règle. Comme au hockey, les mecs ont le droit de se patate pendant 1 minute. Bah, les gens vont commencer à regarder le curling. Et il y a des dramas, les mecs se détestent. Mais je veux dire, à un moment, faut comprendre, en fait. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur
T'as
Dana White.
comparé le curling et le trash talk des sports de combat, mais t'es pas. Attends, non,
Non, mais je
attends,
suis
parce que. Attends, calme-toi, parce que t'étais super
parti
bien
loin.
juste avant de partir sur le curling.
Il
Donc, je vais t'arrêter, d'accaccord? Parce que
y
c'était
a
moi,
déjà, ça
j'étais.
passe ce que c'est. Il y a déjà, il tape sur Google Curling en ce moment-là.
Mais non, mais je
Qu'est-ce
suis
que
sûr
c'est
qu'il y a un
curling? C'est
public,
des
en plus.
chips. C'est des
Je suis
chips.
sûr qu'il y a un public, parce que j'en ai déjà vu à la télé en direct et tout. Donc, je suis sûr qu'il y a un
Mais
public pour ça.
j'ai déjà regardé.
Alors,
J'ai déjà
question.
regardé.
Attends, viens, viens, on ressent parce que tu as dit des choses importantes et je pense que ce qui ressort de ce que tu dis, c'est que le problème qu'on a, c'est qu'on a des vieilles fédérations avec des sports anciens comme justement la lutte et la boxe anglaise. Et l'avantage du MMA, c'est que la fédération a dû se créer. Alors bon, elle a été reprise par, bref, on va pas rentrer dans les détails politiques, mais comme elle a dû arriver là, tu vois, en 2 ans, elle a dû arriver et commencer à se développer. Eh ben, je pense que ça a été poussé par des jeunes qui avaient l'esprit d'initiative et qui connaissaient comment ça fonctionne aujourd'hui. Et ce que j'espère, c'est que d'ici quelques temps, les autres fédérations vont se renouveler aussi, que les anciens vont se barrer et que ça soit la lutte ou la boxe anglaise, on va justement, bah, encore une fois, s'inspirer du MMA pour que, comme tu dis, ces galas qui sont tristes, franchement, il faut dire que c'est triste. Ben enfin, on va avoir des beaux galas. Et quand même, on a eu des beaux grands galas, notamment avec l'Ayrton Ioka, Roland Garros, l'année précédente encore. Ben, c'est quand même un beau gala, tu vois, où tu as ben, le président qui vient s'y rendre et tout. C'est quand même quelque chose.
Bah
Cette
oui.
année, on a eu l'UFC Paris. Donc, je pense que ça va amener un engouement et on va de plus en plus avoir des beaux galas comme ça. Mais clairement, je te rejoins. Il faut qu'on se dépoussière en termes de
Mais il y a
fédé, que
tout
ce
un
soit
taf
la
qui est pas
lutte ou,
fait.
ou la boxe
Mais la
anglaise.
lutte.
Ouais.
Mais écoute, les tenues en lutte. Mais les tenues en lutte. Je veux dire, les tenues en lutte. Mais changer les tenues. Mais juste tu changes les tenues en lutte, imagine comment le sport serait stylé. Si par exemple, t'enlèves les salopettes là, horribles, et tu leur mets juste un short. Les mecs sont torse nu en short. Déjà, ils ont tous des physiques de malade. Tu les mets short, torse nu en short. Mais ça va. Déjà, ça change tout. Parce que visuellement, c'est plus agréable. Je te parle pas de regarder les abdos d'un Kemé ou. Tu vois ce que je veux dire d'un mec ou. Ouais, c'est pas ça. Mais je veux dire, visuellement, le mec, il a une salopette, c'est tout louche. Tu vois, il y a même ça, tu vois, c'est tous ces petits détails que tu vas parler à un dirigeant de la FFL, de la Fédération de lutte, tu vas lui dire, ouais, faut changer les tenues, mais là, le problème, c'est que c'est au niveau mondial, tu vois, que ça doit s'accorder.
Bien
Mais tu
sûr.
vas leur dire, faut changer les tenues de lutte. Ah non, c'est depuis toujours, c'est comme ça, les tenues de lutte. Ils vont te répondre ça, tu vois ce que je veux dire. Enfin,
Attends, j'allais te dire, attention parce que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et il y a quelqu'un
c'est
qui
ça.
dit, ils vont nous mettre des strings dans les tenues de lutte.
C'est ça.
Et là,
Mais
tu
faut
vas
pas remplacer
regretter,
par
tu
les
vas dire,
trucs
revenez
bizarres.
en arrière,
Faut
revenez
pas
vite en
remplacer par les
arrière.
trucs bizarres, ouais. Remettez les. Non,
Mais
mais
par
regarde en
contre, il y a
anglaise.
juste.
Toi aussi, t'as pas bloqué quand t'as vu? Moi, en anglaise, récemment, j'ai vu des mecs qui mettaient des shorts courts.
Ouais.
Mais
Bah, attends,
excuse-moi,
tu veux
c'est
dire quoi
plus.
par court?
Non,
Parce que
pas.
Tyson à l'époque, il avait déjà un short très court pour ce qu'il.
Et sortait du lot parce qu'il voulait montrer ses
Ouais,
cuisses.
c'est vrai, c'est
Et il se
vrai, c'est vrai.
promenait dans la rue en mini-short. Et il avait des stevés, des parkas et des shorts, le mec, dans la rue. Parce qu'il voulait montrer ses cuisses. Bah,
Attends, on va pas parler du style de Mike Tyson, parce que là, on est
Non,
sur
mais.
un autre débat
Non,
qui
mais
va être
c'est
très
ça.
long. Attends,
Mike
juste,
Tyson.
laisse-moi rebondir. Laisse-moi rebondir. Quand t'es lancé, toi, il faut te brider, hein. Parce qu'il y a des mecs dans les commentaires qui disaient que ce que tu décris comme les points négatifs de la boxe anglaise, ils aiment bien aussi ça. Tu vois, ça fait partie du charme de la boxe. Et pour moi, ça montre un vrai problème qu'on a dans la boxe aujourd'hui. Et j'ai vu beaucoup le mot puriste ressortir dans le chat. Regarde aujourd'hui ce qui se passe. On a l'arrivée des combats d'exhibition qui sont faits que pour le spectacle, tu vois, pour toucher le grand public. Et les puristes, ils pètent les plombs sur ça. Et en fait, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que le monde de la boxe se divise en deux. Entre les puristes qui vont baver devant un Devin Haney qui va faire un combat pendant 12 rounds, ou toucher sans se faire toucher. Oui, mais c'est ça la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Et ceux qui vont dire, ah ben non, mais je vais regarder un Jake Paul. Parce que ça va être de la merde, mais je sais que je vais manger de la merde, et au moins il va y avoir un chaos, et ça va faire le tour du monde sur les réseaux. Et la boxe est en train de se scinder en deux.
Non, mais le problème, c'est que les gens, parce que moi, j'ai rien contre Jake Paul, et au contraire, je suis quelque part très admiratif, parce que moi, je l'ai déjà dit, peu importe le mec d'où il vient, à partir du moment où on monte sur un ring, gros, faut porter ses couilles, gros. Peu importe que tu es un youtubeur, je sais pas, faut porter ses couilles, gros, pour prendre le risque devant des millions de gens de te faire étaler sur le ventre. Donc, bref. Mais bref, t'aimes pas Jake Paul, mais le truc, c'est que les gens, quand ils viennent voir Jake Paul, bah, si tu fais super bien ta com autour, si, comme tu disais tout à l'heure, tu arrives à construire des histoires, bah peut-être que les mecs ils vont regarder le co-main event. Et peut-être qu'ils vont regarder le troisième combat de la carte, le quatrième combat de la carte. Peut-être pas les premiers, mais les gens ils vont s'intéresser aux autres gens sur la carte. Et Jake Paul, bah, il attire un autre public. C'est-à-dire que c'est cette majorité-là qui apporte de l'argent. Tu n'auras jamais une majorité de puristes. Ou alors, une majorité puriste, c'est un sport comme les fléchettes, tu vois, je vais éviter de dire curling, mais tu n'as jamais une majorité de puristes. Conor McGregor, quand il fait ses plus grands pay-per-view en MMA contre Khabib Nurmagomedov, l'une des plus grands pay-per-view de l'histoire, d'ailleurs, je crois que c'est le plus gros pay-per-view de l'histoire, c'est un soir où 75% du pay-per-view, des gens qui payent, ils ne regardent jamais des MMA. Ils ne regardent
Bah, je
pas
crois que
des MMA.
c'est mon premier combat de MMA en direct.
Bah voilà, ils regardent pas des MMA en général, les mecs. Et les mecs là, le soir là, ils ont découvert d'autres combattants. Et si l'UFC a bien fait son
Et
taf,
t'as
eh
totalement
ben,
raison, j'ai
ils vont
découvert
peut-être
en.
suivre les autres mecs derrière.
Ouais,
Ils vont peut-être
t'as
suivre les autres
raison.
mecs derrière. Ça veut dire qu'au
Parce
lieu
que
de
j'ai
dire, ouais,
découvert
mais
juste
check
avant.
Paul.
Tu te rappelles ce combat juste avant là? Et un combat super impressionnant, super spectaculaire.
Deux.
C'était juste avant Khabib contre Conor.
Bon, je sais plus.
Et justement, ça m'a marqué parce que j'avais trouvé ce combat bien meilleur que le combat finalement Conor contre Khabib, que bah, je
Je sais plus,
trouvais oufissime.
je vais dire ça tout de suite grâce à
Un mec
Google.
tatoué qui a une petite tête ronde écrasée.
Ah, Fergu. Attends, alors Ferguson,
Ferguson,
Tony
c'est ça.
Ferguson contre Anthony
Ferguson.
Pettis.
Et ça,
Putain, là, ça
c'était un
date.
beau spectacle, là. Ça, c'était
Ça,
un beau
ça date.
spectacle, ce combat. Bref, en tout cas, ouais, tout ça pour dire que je suis totalement d'accord avec toi. On en revient à des arguments qu'on a déjà pas mal développés. Donc, c'est pas la peine de revenir dessus. Mais encore une fois, tu as raison. On fait pas un sport que sur les puristes. Et d'ailleurs, bah, ma chaîne YouTube, je l'ai développée. Pourquoi? Parce que je suis pas resté que sur une chaîne de puristes. Et je me suis ouvert aussi à parler de divers sujets autour de la boxe anglaise. Donc, il faut savoir se remettre en question. Et la boxe,
Mais
il est
ça en
grand temps
profite à la
qu'elle le
boxe.
fasse. Mmh.
Ça en profite à la boxe. Parce que dans tous ces gens que tu as amenés, qui sont venus parce que tu avais écrit Jake Paul, par exemple, eh ben, il y en a qui se sont dit, ah, c'est intéressant quand même ce qu'il dit, tout, ça m'intéresse la boxe. Et hop, ben, c'est des mecs maintenant qui suivent la boxe. Et c'est comme ça que ça marche tout le temps. Parce que tu es à la base, avant d'être un puriste, tu es arrivé comment dans la boxe? Comment tu es arrivé dans la boxe? Je veux dire, à un moment, t'es arrivé dans la boxe, t'as pas regardé la télé, tu t'es dit, je comprends tout ce qui se passe, allez, je suis fan de boxe. Il y a un moment ou un autre, il y a une star, il y a quelque chose qui t'a fait venir dans ce sport, il y a quelque chose qui t'a attiré, tu vois ce que je veux dire? Les footballeurs, ils ont regardé Ronaldo, Luis Nazario, hein, le Ronaldo, et puis ils l'ont vu dribbler, et puis ils ont fait, waouh, il est trop fort, et il dribble tout le monde, on dirait que personne s'est joué au foot devant lui, il était hors norme, ils ont regardé le foot, et ils ont commencé à s'intéresser à tout le reste, et boum, et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils disent, ouais, moi je connais le foot, non, mais à la base des bases. C'est tout le monde, c'est pareil. On est venu quelque part. Il y en a, ils sont fans de boxe anglaise parce qu'ils ont vu Mike Tyson faire des dingueries sur le ring. Mais ils connaissaient rien. Ils voulaient juste voir Mike Tyson éteindre les gens. Ils venaient pas regarder la technique pure. Enfin bref. En fait, il faut prendre du recul. Et je pense que la force du MMA, c'est ça. C'est qu'ils sont décomplexés, en fait. C'est ça, c'est ce qu'il y a de bien, de positif, parce qu'il y a plein de choses de négatives dans cette époque-là dans laquelle on vit. Mais il y a aussi ça de bien, c'est qu'ils perdent pas de temps à se prendre la tête avec le passé, avec du blabla, avec des fausses. Enfin voilà, tu veux pas regarder, tu regardes pas. Si t'aimes pas, t'écoutes pas. Enfin voilà,
Et
t'as
puis c'est tout.
compris.
Si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout.
Ouais.
Ok, bah écoute, non, super, merci, merci de nous avoir apporté tous ces éléments. C'était vraiment top. Je finis sur une bonne phrase de puriste, de Faco Labouche, qui nous dit: c'est en pratiquant que j'ai compris la beauté de la boxe. Alors ça, c'est bien la
Oh, c'est
phrase de
beau.
puriste.
Oh, c'est beau.
Là, c'est beau, c'est beau. Et tout à l'heure, il y a Jonathan qui disait, alors c'était il y a un bon moment, hein, que c'était le meilleur podcast depuis le début de cette chaîne de podcast. Et ben, c'est grâce à toi, Samir. Donc, je te remercie énormément
Bon.
de nous avoir accordé ton temps.
Merci à toi. Avec
Est-ce
plaisir.
que tu as une petite phrase de fin?
Ouais. Fighting!
Ça, c'est le mot de la fin. Ça, c'est le mot de la fin. Bah, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Bon, j'ai pas pris le temps de lire tous vos commentaires parce que vous avez vu, une fois que Samir était lancé, c'était difficile de l'arrêter, hein. Comme Joyce, une fois qu'il est lancé, c'est dur de l'arrêter. Non, mais en plus, on avait déjà tellement de choses à vous dire qu'on pouvait pas non plus se permettre de rebondir à tous vos messages. Mais vous êtes bien éclatés à discuter entre vous. Ta prochaine vidéo qui sort, c'est quoi?
J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, gros.
C'est quoi le prochain événement?
Enfin, j'en ai aucune idée non plus. Non. Prochain événement. Événement pour moi, c'est comme je te disais tout à l'heure, Nassourdine Imavov
Ok.
contre Kelvin Gastelum. Hein. Donc voilà. Combat important. Combat
Ok.
important. Enfin, pour le MMA français. Hein. Combat important.
D'accord, bah écoute, on va suivre ça. Allez vous abonner à la sauvagerie française. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Ça fait un moment qu'on est en contact. Et la dernière fois, tu me disais, ouais, tu m'as jamais habité sur Box Attitude et tout. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça?
Bah ouais, parce qu'en fait, on a fait des vidéos ensemble, mais c'est toujours sur ma chaîne.
Non, c'est pas vrai. T'es dans le bilan de l'année que j'ai sorti en début de cette année 2022. T'as
Ah
une
oui.
séquence spéciale où tu dis le bilan de ton année. Alors, t'es jamais venu sur Box
Oui, c'est
Attitude?
vrai, ouais. Ouais.
C'était il y a un an. C'était il y a un an.
Non, mais là, aujourd'hui, je me suis bien lâché aujourd'hui, tu vois. J'ai
Ah ouais,
pas trop
grave,
entendu.
grave, grave. Là, t'as vraiment eu carte blanche aujourd'hui. Bah, merci à toi.
Ouais.
Et sous le post que j'ai fait où je disais aux gens, j'annonçais que tu serais là, je leur ai demandé de deviner de quoi on allait causer. Il y en a pas beaucoup qui ont deviné qu'on parlerait de ça aujourd'hui, mais on a eu pas mal d'idées, de pistes de prochains podcasts. Donc, je vais garder tous ces commentaires et bah, je te réinviterai pour qu'on fasse d'autres sujets.
Avec plaisir.
Merci à vous, merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Fighting!